Est-ce que vous avez pensé à des questions? Est-ce que quelqu'un avait... Oui? Quelqu'un avait... Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous auriez pensé, que vous auriez voulu... Sinon, je vous laisse encore un petit peu de temps. Vous vous rappelez, hier, on avait parlé de poser des questions. Et comme vous êtes tous des soldats bien aguerris, vous n'avez pas de questions. Pardon ? Ça peut venir. Ça peut venir. Ok. Si je vous pose la question, comment est-ce que... On va prier d'abord. Seigneur, on te remet ce temps cet après-midi et on te remercie parce que c'est toi qui nous enseignes, qui nous prépare pour les choses de ton royaume et qui prépare ton église pour les choses qui viennent. Donne-nous cet après-midi la grâce d'entendre ta voix et de comprendre tes plans pour les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Comment est-ce que Dieu vous parle? Vous pourriez me dire, approchez-vous un petit peu, approche-toi mon frère. Viens peut-être par là devant. Venez un peu devant. Venez, venez. Comme ça on est un peu en famille. Dans certaines églises, les gens se mettent jamais tout devant parce qu'ils pensent qu'il y a des anges qui se mettent sur les chaises, donc ils ne veulent pas les troubler. On parlait des anges tout à l'heure. Ok. Comment est-ce que Dieu vous parle? Dites-moi un petit peu. Vous levez, dites-moi un peu. Comment ça vous arrive que Dieu vous parle? Comment ça se passe? C'est par une vision? C'est par... Il y a un ange qui vient vous taper sur l'épaule? Comment ça marche? Dites-moi un petit peu. C'est juste une pensée qui vous vient, c'est... En lisant la Bible. Ça, c'est bien. Intéressant comme réponse. Une autre, quelqu'un d'autre?
Dans un rêve.
Dans un rêve, ok.
Audiblement aussi, des fois.
Pardon?
Audiblement aussi, des fois.
Audiblement, des fois, tu as entendu la voix de Dieu?
Ah oui, je l'ai entendu une fois.
Amen, amen, oui.
Par un chrétien?
Par un chrétien qui, oui. On sent que Dieu est en train de nous parler.
En priant aussi.
En priant. Dans la prière, tu sens qu'il y a des choses qui viennent dans la prière. Ouais.
Ça peut même être par des non-chrétiens.
Parfois, c'est des non-chrétiens qui nous parlent et on sait que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Ça arrive. Ouais. Et toi, Jérôme, comment est-ce que Dieu te parle?
Eh bien,
par tous ses moyens.
Par tous ses moyens. Parfois, c'est par parfois, c'est par les pensées ouais. qui peuvent venir. Parfois... par des inconvertis, parfois c'est varié, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
Oui, c'est ça. Ok. Donc, on sait que Dieu parle de différentes manières. Maintenant, parfois, on se dit, j'aimerais bien que Dieu me parle ou me réponde à telle et telle question. Vous voyez ? On a un choix à faire dans notre vie, on a un dilemme. On aimerait que Dieu nous parle, et parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Ça vous est déjà arrivé, ça? Et on s'est dit, oui, tous ces chrétiens, qui, hein, comme la sœur qui dit, ah, ils entendent même la voix audible de Dieu, et moi, Dieu ne me parle pas. Et... Vous avez déjà entendu ça, hein, ce refrain-là. Même si ce n'est pas vous qui êtes dans ce cas-là, vous l'entendez éventuellement autour de vous, parmi ceux que Dieu vous demande de former comme disciples. Et donc... Le fait est que Dieu a des choses à nous dire et que Dieu nous parle. En fait, si tu es disciple, si tu es en Christ, Dieu parle de toute façon. Vous voyez, puisqu'il est dit dans Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix ». Vous connaissez ce texte? C'est bien connu, hein? « Mes brebis entendent ma voix ». Et donc... Mes brebis, lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, verset 4, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Ouais. J'ai pas le texte exact où il dit mes brebis entendent. Voilà. Moi je suis le bon berger, verset 14, je connais mes brebis me connaissent. Et puis, il y a encore d'autres brebis, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, et un seul berger. Donc les brebis, le chrétien entend la voix de Dieu, connaît Dieu, est sensible et peut entendre la voix de Dieu. Donc si tu dis que Dieu ne te parle pas, ou que tu as l'impression que Dieu ne te parle pas autant qu'il parle à d'autres chrétiens, le problème est ailleurs, c'est pas Dieu qui ne parle pas. Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème c'est que on est distrait par plein de choses. On est distrait par plein de choses. Et on n'a pas cultivé le sens d'être dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Et on a peut-être aussi des choses dans notre vie qui nous rendent insensibles à ce que Dieu aimerait nous dire. Et donc, on a besoin de prendre du temps et de se vider de toutes ces distractions pour être vraiment à l'écoute et pouvoir l'entendre. C'est très important dans la vie d'un disciple. En fait, on peut dire ceci. C'est que, si vous voulez... qu'est-ce qui fait que certains hommes ou femmes de Dieu ont eu des résultats extraordinaires, si vous les interrogez, ça revient à une seule chose. J'écoute et j'obéis. Dieu me parle et je fais ce qu'il me demande de faire. C'est tout. Si vous avez ça, vous pouvez être leader d'un grand nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que comme vous avez entendu Dieu vous parler, vous savez des choses que les autres ne savent pas. Et donc vous pouvez les conduire. Alors que personne ne sait quel chemin prendre, vous savez quel chemin il faut prendre parce que vous avez entendu Dieu vous parler. Vous avez des informations que les autres n'ont pas. C'est les informations qui viennent du ciel. Vous suivez ? Et donc c'est ce qui fait de nous des leaders, pas seulement pour l'Église, mais dans le monde. Vous voyez ? Les gens s'affolent, les gens ont crainte, les gens disent « qu'est-ce qu'on va faire ?» etc. Et vous savez, parce que Dieu est avec vous et Dieu met dans votre cœur des pensées. Joseph, on connaît tous l'histoire de Joseph, auquel Dieu a révélé qu'est-ce qui allait arriver dans les 14 années qui allaient suivre en Égypte. Et même plus que 14 années, vous voyez. Il a eu la révélation. Et le pharaon a reconnu que Joseph avait une connaissance des choses que personne d'autre n'avait. Il a dit, si l'esprit des dieux, c'est comme ça que lui l'interprète en tant que pharaon, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Si l'Esprit de Dieu habite en toi de cette manière, dans ce cas-là, je peux te faire Premier ministre. Vous voyez ? Vous savez que les dirigeants actuels politiques, leur grand problème, c'est qu'ils ne savent pas l'avenir. Ils aimeraient bien le savoir. Et donc, la plupart ont des voyantes qui les aident. La plupart. Ils ont besoin, ils savent, au niveau de responsabilité où ils sont, qu'ils ont besoin du surnaturel pour diriger le pays. Et donc, ils consultent. Ils consultent, ils cherchent, vous voyez ? Mais nous, on a le Seigneur, ok ? Et donc, si je sais, si j'ai cette capacité d'entendre la voix de Dieu, et si j'ai cultivé cette écoute de Dieu, je serai un leader nécessairement, vous voyez ? Parce que j'ai des informations que les autres n'ont pas. Et ça, c'est important. Je vous donne un exemple tout simple, vraiment simple, parce que des fois, vous savez, quand on dit entendre la voix de Dieu, on pense qu'on va avoir un message tout à fait extraordinaire, etc. Mais des fois, c'est des choses simples. Et il faut apprendre dans le domaine de la simplicité. Quand j'étais à l'armée en Suisse, on faisait des exercices, on appelait ça l'exercice de résistance. Donc on partait une semaine, on marchait 50 km avec tout le pactage, etc. On dormait dans les bois, enfin, voilà. Et puis on était sales, on était fatigués. Et j'avais un ami qui était juif et qui était devenu pratiquant pour les besoins de la cause, parce que comme ça il pouvait prendre son sabbat. Et en Suisse, les militaires qui sont juifs ont le droit de partir en permission juste avant le coucher du soleil le vendredi soir, mais ils doivent rentrer à la caserne le samedi soir, et comme ça le dimanche ils n'ont rien à faire parce que les autres sont en permission le dimanche. Donc il gagne un jour, si vous préférez. Donc lui, intelligemment, il n'était pas vraiment pratiquant, mais là, pour le coup, il était pratiquant. Bon, c'était un bon copain. D'ailleurs, il me faisait éviter plein de corvées, parce qu'il avait, un truc pour éviter les corvées. Un garçon intelligent. Il s'appelait François. Et voilà qu'on est en pleine forêt. On a passé une semaine à crapahuter partout, on est fatigué, on est sale, on est fatigué. On se dit, c'est vendredi, il est 4h d'après-midi, on se dit, on va devoir encore rentrer à la caserne, tout ranger, tout nettoyer. Après seulement, on pourra partir en permission. On est découragé. Oui, déjà, d'avance, on... Et voilà que tout à coup, on a un gradé qui arrive, un haut gradé qui arrive avec sa Jeep, en pleine forêt, qui appelle mon ami François, qui dit, par ici, s'il vous plaît. François, il prend son sac, il sort du fond de son sac sa tenue de sortie, parce qu'on a une tenue de sortie. Nous, on l'avait pas, mais lui, il l'avait. Il se met en tenue de sortie devant nous dans la forêt, les petits souliers vernis, etc. Il part dans la Jeep du grand gradé pour aller faire son sabbat. Alors, je vous dis pas, le moral des troupes était dans les chaussettes. Oui, là, on était... Et je me revois avec tous les amis, assis au pied des arbres, on voulait plus bouger. Caporal, debout ! On répondait même pas, on était out, vous voyez, je veux dire. Et puis, il y a eu un moment comme ça, un peu de flou. Et puis, j'avais toujours dans ma poche un petit Nouveau Testament des Gédéons. Et moi, dans mon expérience personnelle, Dieu me parle énormément par les Écritures, si vous voulez. Pas seulement, mais... Dans le quotidien, c'est comme ça que Dieu me parle. Et pendant que j'étais à l'armée, j'ai fait beaucoup d'expériences avec Dieu dans ce domaine. Et je lisais mon petit Nouveau Testament. Et alors, il y avait le petit Nouveau Testament, mais là, je pense que j'avais ma Bible dans mon sac, parce que c'était un texte d'Ésaïe, en l'occurrence. Donc, je sors ma Bible. Et puis, mes copains savaient que j'ai la Bible, donc... Voilà, d'ailleurs, il y en a qui venaient vers moi de temps en temps, qui posaient des questions, je me rappelle. Enfin, il y a eu des histoires assez amusantes, d'ailleurs. Et puis, j'ouvre ma Bible et je tombe sur Ésaïe 40. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Les jeunes hommes chancellent, sont fatigués, mais il donne de la force à ceux qui s'attendent à lui. Et il court et ne se lasse pas, il marche et ne se fatigue pas. Et je lis ce passage et je suis fortifié par le Saint-Esprit. J'ai une joie à l'intérieur. Vous voyez, je veux dire. D'un coup, je me lève, je prends les amis, les uns après les autres. J'étais pas caporal, j'étais rien du tout. Moi, j'étais juste. D'accord. Je dis, allez. Avec un grand sourire, j'étais rempli du Saint-Esprit. Ils sont tous levés en souriant, et tous repartis. Hop, c'était parti. J'étais devenu un leader. Comment? Parce que j'avais une information qui venait du ciel. Vous comprenez? Que eux n'avaient pas. Parce que j'avais la parole. Et j'avais pas que la parole. J'avais le Saint-Esprit. Vous suivez? Et donc, dans des circonstances de la vie, si tu es connecté, si tu as cette habitude, parce que moi c'était une habitude, je lisais la parole. Je crois que je n'ai jamais autant lu la Bible que quand j'étais à l'armée, parce qu'il y avait plein de... Vous savez, à l'armée, vous passez un temps fou à attendre, à ne rien faire, etc. Et tu lis ta Bible. Et donc, je m'étais habitué à ça. Et Dieu me faisait faire des petites expériences comme ça, qui n'avaient pas de conséquences majeures, vous voyez ce que je veux dire? On n'en serait pas mort de l'histoire. Mais quand même, ça fortifiait ma foi et Dieu m'apprenait. Et donc, apprenez dans les circonstances simples de la vie, où il n'y a pas le micro, il n'y a pas toute l'église qui est réunie, il n'y a pas les écrans, les caméras, etc. Apprenez à être sensible au Saint-Esprit et réalisez qu'il est avec vous dans toutes les circonstances. Vous voyez ? Même quand vous ne sentez rien, même que vous êtes découragé, même quand vous êtes... Dieu, il est là. Et donc, on peut faire des belles expériences. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, Dieu me parle. Il ne me parle pas nécessairement avec un long discours. Voilà, maintenant, je vais te dire tout ce que tu vas vivre dans les 15 années qui viennent. Et tu vas prendre un crayon et tu vas remplir 10 pages de toutes les choses que je vais te faire faire. Heureusement qu'on ne sait pas tout entre nous. Et parfois, ce qu'on a juste besoin de savoir, c'est que Dieu est avec nous. Vous voyez ? Quand Dieu t'appelle, il te dit, est-ce que tu es d'accord d'être mon soldat? Mais Seigneur, tu vas me faire faire quoi? Ça ne te regarde pas. Est-ce que tu es d'accord d'être mon soldat? Si tu es d'accord d'être le soldat de Dieu, ne t'occupe pas du reste, lui il s'en occupe. Il va te dire ce que tu dois faire jour après jour. Mais si tu veux tout savoir à l'avance... Moi, quand j'avais 15 ans, je me rappelle, mon père avait une bibliothèque assez bien fournie, avec plein de biographies. Et j'étais comme... Ça me travaillait cette affaire d'appel de Dieu. Alors je lisais les biographies, je lisais les deux premiers chapitres, et je m'arrêtais quand le grand homme de Dieu, Billy Graham et compagnie, au moment de son appel, je lisais comment il était appelé, après le reste ne m'intéressait pas. Je voulais savoir comment Dieu l'avait appelé, comment ça marchait, vous voyez, je veux dire. J'en ai lu plein comme ça, juste les deux premiers chapitres, enfin un ou deux, jusqu'à ce que Dieu l'appelle, et après, Vous voulez savoir comment ça marchait, vous voyez. Donc il y avait une soif qui était là. Et je me disais, mais comment ça s'est passé, comment ça marche, vous voyez. Et un jour, Dieu m'a appelé. Ce jour est arrivé dans ma vie et je ne m'y attendais pas du tout. Quand Dieu nous parle et quand Dieu nous rencontre, on ne s'y attend pas. On est dans la, t'es dans ta, des fois, Dieu vous parle dans vos activités de tous les jours. Vous voyez, vous ne faites rien de particulier. Tu fais ta vaisselle, tu es en train de prendre ta douche, tu es en train de faire ton jardin, tu es en train de, d'étudier. Quand Dieu m'a appelé, j'étais en train d'étudier un cours. Je rappelle le cours que j'étudiais. C'était un cours de physico-chimie des solutions. Deuxième année de biologie à l'université. J'étais passionné par mes études. Je voulais devenir prof. Vous voyez ? Physico-chimie des solutions. Vous voyez un peu le truc. Osmose. Je me rappelle. Je recopiais mon cours. J'étais dedans. Vous voyez ? Et puis à un moment donné, je sens quelque chose comme une sorte de veste qui me tombe sur les épaules. Et ça me dérange. Vous voyez ? Et je fais comme ça. Comme pour me débarrasser de quelque chose qui me dérange. Et puis ça devient de plus en plus lourd. Puis ça me dérange de plus en plus. Alors je commence à faire les 100 pas, j'étais tout seul chez moi, je commence à faire les 100 pas, on avait un long couloir dans l'appartement, on était à Paris à l'époque, et je fais les 100 pas, et plus je marche, plus c'est lourd, et là tout à coup je réalise que c'est pas, parce que sur le moment je comprenais pas ce qui m'arrivait, et je réalise que c'est la présence de Dieu, vous voyez, et c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler, et c'est là, c'est ce jour-là que j'ai dit Seigneur, même les études, les ambitions, je laisse tout entre tes mains. Donc Dieu vient nous parler là où on est. Gédéon était où ? Il était en train de ramasser de battre le grain, je crois, dans un pressoir pour se cacher. Mais il était dans son monde, vous voyez. Il était en train de faire ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait pour échapper à l'ennemi, etc. Et c'est là que Dieu lui parle. Dieu ne lui a pas parlé au temple à Jérusalem. Enfin, il n'y avait pas de temple à l'époque. Il ne lui a pas parlé dans le tabernacle. Il ne lui a pas parlé, vous voyez, nécessairement au sommet d'une montagne. Dieu lui a parlé dans son quotidien. Et Dieu, souvent, vous voyez, dans le Testament, Dieu parle aux gens sur un chemin, en voyage, enfin. Dieu veut te parler dans ta vie quotidienne. Et il te parle. Mais souvent, on est là, on est tellement pris par nos affaires qu'on n'est pas attentif. Et donc, je vous donne ces petits exemples pour vous dire que c'est simple, c'est Dieu est proche de toi et il comprend ce que tu vis, il est dans ton quotidien, il est là et il veut te parler. C'est même mieux que ça. On va lire dans la première épître de Jean. Alors, je vous rappelle juste que j'aimerais que vous me posiez des questions cet après-midi. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, notez-les, je vous avais déjà dit ça hier. Et j'aimerais bien vous poser des questions sur la vie de disciple, sur des choses concrètes qui vous... Et si je n'ai pas la réponse, je demanderai à votre pasteur. C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet. Alors, parce qu'il a plus d'expérience que moi. Maintenant, dans la première épître de Jean, on a, je l'ai mentionné ce matin, au chapitre 4, Verset 4, 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu. Alors, dans la seconde, c'est vous les avez vaincus, et dans la colombe, et vous avez vaincu les faux prophètes. C'est extraordinaire, ça, entre parenthèses. Quand vous pensez à l'islam, vous avez vaincu les faux prophètes. Petits enfants, vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout le monde, tous les chrétiens savent que Jésus vit dans leur cœur, d'accord ? Si tu dis à un enfant à l'école du dimanche, où est-ce qu'il est Jésus ? L'enfant répond, dans mon cœur. Ça veut dire qu'il a compris sa leçon. Okay ? Mais bon, quittons un peu l'école du dimanche. Comment est-ce que Jésus vit en nous ? Dites-moi. Comment est-ce que Jésus vit en toi aujourd'hui ? Les jeunes. Pardon ? Il renouvelle nos pensées. Qui renouvelle tes pensées ? Le Saint-Esprit. Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Mais quand la Bible dit « en nous », ça touche nos pensées, ça c'est le domaine de notre âme, mais il vit dans notre esprit. D'accord ? On a au centre de nous-mêmes un espace qui s'appelle l'esprit. L'esprit, ça veut dire le souffle. Vous voyez ? Et donc, quand vous priez, quand vous proclamez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là et quelque chose se passe. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important de prier à voix haute. Parce que le souffle, la parole, tout ça, c'est lié ensemble. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. À quel moment le Saint-Esprit vient habiter en nous ? Je vous écoute. À quel moment Dieu a fait son habitation en toi ? À la conversion. La nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Regardez dans 1 Pierre. 1 Pierre. Il est dit au verset 23, vous qui avez été régénérés, 1 Pierre 1, 23, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, cette parole qui est venue dans ton cœur, c'est une semence. C'est une semence de vie, c'est la nature de Christ, c'est la vie du Saint-Esprit qui est là. Ça commence comme une semence, mais vous savez que dans une semence, il y a tout. D'accord ? Une semence, il y a tout. Si vous semez cette semence, qu'elle prend vie, ça peut devenir un arbre qui mesure 30 mètres de haut. Vous voyez ? Et ça a commencé par une semence. Donc, là, au moment de ta conversion, la semence de vie, de la parole, par le Saint-Esprit, est plantée en toi. Et, comme dit l'Épître aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Jésus-Christ vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Regardez dans Jean 14, c'est un peu plus explicite. Jean 14. Verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père. » C'est Jean 14, 15 et 16. « Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous... vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » La fin du verset 17. Il sera en vous. Donc au moment de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous. Jusque-là, vous me dites, oui, mais ça quand même, on le savait. C'est une évidence. Mais le problème, c'est est-ce qu'on le réalise dans notre vie de tous les jours ? Très souvent, le chrétien prie comme si Dieu était à 10 000 km au-dessus de sa tête. Et il se dit, j'espère que Dieu m'entend. C'est pas vrai ? Mais là, Seigneur, si tu m'entends, tu penses à moi dans ton ciel, si jamais tu as une petite place pour moi dans ta mémoire, tu pourrais pas juste te souvenir de moi, voyez ? Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, où quand Corneille prie, les prières sont montées jusqu'à Dieu, et il y a quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre. Oui, tout ça c'est vrai, mais le Saint-Esprit habite en nous. Donc, Dieu n'est pas si loin. Vous voyez ? Donc, quand je réalise que Dieu est pas seulement avec moi, il est avec moi, mais il vit en moi par le Saint-Esprit, ça booste la foi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Là, vous allez. Vous avez celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, ça doit changer notre mentalité, ça doit changer notre manière de voir les choses. Je disais tout à l'heure, on parlait avec votre pasteur, je disais, nous en France, les pasteurs, on a un complexe. Parce qu'on pense aux grands hommes de Dieu en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, etc. Puis on a l'impression que nous, on n'est rien du tout. Vous voyez, je veux dire. Mais on n'est pas rien du tout. Parce que celui qui habite en moi, il n'est pas rien du tout. C'est le Créateur. C'est la troisième personne de la Trinité qui invite en nous, le Père et le Fils, puisqu'il est marqué toujours dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quand même, c'est pas rien. Nous ferons notre demeure chez lui. Et donc, on vit quelque part, en termes de foi, on vit... comment dire ? On a une sorte de... Oui, on a un complexe. c'est peut-être un complexe un peu français. On a un complexe et on se dit, nous, les chrétiens français, on n'est pas comme les Coréens, on n'est pas comme les Américains, on est peu de choses, et puis j'espère que Dieu est avec nous, on va prier pour que la présence de Dieu puisse venir, on va essayer de créer une échelle pour monter jusqu'au ciel, on va voir ce qu'on arrive à trouver, on va aller chercher le réveil. Mais le Saint-Esprit vit en toi, mon ami. Il est là. Le Seigneur est là. C'est à nous d'activer cette flamme. Vous voyez ? Ranime la flamme du don que tu as reçu. Vous savez, quand j'étais enfant, on avait le vieux système de chaudière. Quand vous allumiez l'eau chaude, il y avait la petite flamme dans la chaudière, tu faisais psh, et puis on entendait le vouvouvouvou. Il y avait plein de flammes. Moi, quand j'étais enfant, je regardais dedans. Quoi. Comment ça marchait ? Ça m'intriguait, cette histoire. Tu ouvrais le robinet d'eau chaude, et puis ça s'enflammait. D'accord ? Il y avait tout le temps la petite flamme. Puis de temps en temps, vous ouvriez le robinet, rien ne se passait, l'eau était froide, parce que la flamme s'était éteinte. Il fallait la rallumer avec une allumette. C'était le vieux système à gaz. Ok ? Et chaud, on appelle ça le chauffe-eau. Eh bien, nous, on a cette flamme, on a la présence du Saint-Esprit, mais il faut que ça s'embrase, que nous, on soit embrasés, vous voyez ? Et pour ça, il faut ranimer, il faut... c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça que, vous voyez, on se rappelle, on lit la parole, on s'investit. Mais on sait, et on doit se rappeler avant toute chose, Christ vit en moi. D'accord ? Je vis pas, je prie pas un Dieu qui est lointain. Il n'est pas juste à côté de moi, il est là, il est en moi. Ça va changer beaucoup de choses. Donc Dieu peut te parler à l'intérieur de toi. Ok ? Très concrètement, je parle très concrètement. Pas juste, parce que nous, il y a un problème de vocabulaire en français. On parle de l'esprit. Mais en français, dans la langue française, le mot esprit est utilisé pour parler des choses intellectuelles. Par exemple, on parle d'un grand esprit, ou bien faire de l'esprit, c'est faire de l'humour, ou un esprit vif. Tout ça, on parle d'intellect. Ok ? Donc on confond l'esprit avec le cerveau, avec le monde des pensées, l'intelligence. C'est pas la même chose. Regardez avec moi dans Job, je vais vous montrer pourquoi. Job. Je vous explique ça parce que on vit en deçà de ce que Dieu a prévu pour nous. Il faut qu'on réalise qui on est en Jésus-Christ. Et le potentiel extraordinaire que Dieu a placé en nous. Job 30... Oui, 32. Verset 6. Éliou, fils de... Alors, vous savez, il y avait des anciens très très âgés qui discutaient avec Job sur ses souffrances. Il y a tout un débat théologique. Il y a 31 chapitres de débat théologique très approfondis, d'accord ? Où il se pose des questions, pourquoi la souffrance, Job, as-tu péché ? Non, ce n'est pas que j'ai péché, etc., etc. Il se pose. Il y a plein de questions qui sont posées là. Et puis il y avait un jeune qui était avec eux, qui dit, écoutez, moi je me suis tu jusqu'à maintenant parce que j'ai du respect pour le grand âge, mais là il faut que je parle. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu et j'ai quelque chose à vous dire. Et là on rentre dans le domaine prophétique, c'est intéressant. Regardez Job, chapitre 32, verset 6. Éliou, fils de Barakel de Bouz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Déjà, on sent qu'il y avait du respect à l'époque pour les cheveux blancs. Hein. Je me disais, l'âge avancé saura parler, le grand nombre des années fera connaître la pensée. Mais en réalité, dans un homme, écoutez bien, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Ah, voilà, voilà la clé. Vous voyez ? C'est en fait, par le Saint-Esprit, tu peux recevoir une intelligence surnaturelle et des capacités surnaturelles. C'est vrai, ça marche. Ok ? Donc, l'Esprit n'est pas l'intelligence, il est avant l'intelligence. Ok ? Et si le souffle du Saint-Esprit est en toi, tu peux recevoir des pensées, tu peux recevoir des clés, tu peux recevoir des solutions, même dans le domaine pratique, pour ceux qui font de l'informatique, là, pour ceux qui font dans le domaine du sport, de la médecine, et etc., etc. J'ai un neveu qui est chirurgien et qui nous racontait, il est vraiment en Christ, qui nous racontait qu'un jour il fait des prothèses de la hanche et il y avait une dame qui était comment dire, qui avait un souci avec sa prothèse et il y a un moyen de remettre la prothèse en place, mais donc on met des, comment dire, il l'endort en partie pour pouvoir essayer de remettre la jambe en place et il n'y arrivait pas. Il a essayé pendant une heure et il transpirait littéralement sur cette affaire et c'était très compliqué. Il s'est dit, je vais être obligé de l'opérer, tout ça. Et il a prié. Il dit, Seigneur, je fais comment? Et Dieu lui a montré, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Il a fait un geste particulier, la prothèse était remise en place. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Vous comprenez? Et vous avez des gens qui ne sont pas chrétiens, au sens où on l'entend, dans le sens, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils n'ont pas... Mais qui parfois reçoivent des pensées, ils ne savent pas que ça vient de Dieu, parce que Dieu a besoin, pour ses plans parfaits, que quelqu'un invente telle ou telle chose, d'accord? Ça peut être dans le domaine de la médecine, parce que, voilà. Donc tout ça, Dieu le gère, et le Saint-Esprit, il est partout. Donc, si Dieu, par son esprit, peut utiliser un non-chrétien pour lui souffler, parce que les gens disent c'est mon inspiration, c'est un génie, vous savez que le mot génie, en fait, c'est un mot qui touche au monde spirituel. Mais non, c'est pas un génie. Le Saint-Esprit est là, et Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Vous suivez? Alors, à combien plus forte raison, nous, qui sommes le peuple de Dieu, qui connaissons les choses de l'Esprit, on ne devrait pas avoir des complexes en se disant « Ah, moi, je suis nul, moi, je ne sais pas, etc. Moi, je ne peux même pas guérir un moustique, etc. » Mais bien sûr que tu ne peux pas guérir un moustique, mais le Saint-Esprit vit en toi. Alors, fais confiance à Dieu. Active la foi en toi. Ranime la flamme. Commence à faire des choses qui sont a priori impossibles. Prie devant les situations impossibles. Dis, Seigneur, tu vis en moi, tu as la solution. Et que ça peut être dans des domaines de médecine, informatique et tout ce que vous pouvez penser. Moi, j'étais béni dans mes études parce que j'ai prié. J'ose pas vous dire les prières que j'ai faites. Comment... C'est la grâce de Dieu. Mais je me rappelle quand j'étais en... Je faisais, on avait la géologie, cours de géologie. Et on avait une vingtaine de cours qu'on devait réviser pour les partiels. Et je priais avec un... On vivait un réveil. Je priais avec un membre du Point du Jour, Alain Lamotte, tous les mercredis. On témoignait de notre foi. J'allais à toutes les réunions de prière de la ville de Paris qui existaient. Enfin, on était... Et puis, avec tout ça, je prenais pas assez de temps pour mes études. Alors, je dis pas que c'est un bon modèle, mais enfin... Voilà, c'était un peu... Et voilà que la veille de l'examen de géologie, je me dis, j'ai pas révisé. Quand vous avez 20 cours à réviser en une soirée, ça fait un peu beaucoup. Et je commence à lire en diagonale, vous savez, pour avoir quelques idées. Je dis, au moins, j'aurai au moins 3 sur 20, comme ça. Et puis voilà qu'il y a un copain qui m'appelle, qui me dit, dans le premier cours, il y a un truc que je comprends pas. Et puis c'est un gars qui fouillait, etc. Alors on a, pendant une heure, on a discuté, etc. J'étais là, on comparait nos notes de cours, etc. Et finalement, j'ai compris ce cours et je lui ai expliqué et tout ça. On était d'accord ensemble, bon. Puis après, je me dis, ouais, il est 9h, je vais me coucher. J'arrive le lendemain. La question que mon copain m'avait posée... Alors j'ai prié, bien sûr. J'ai dit, Seigneur, voilà. J'ai tort, c'est ma très grande faute. Ok. Mais en même temps, tu sais... À quoi j'emploie mon temps? Là, je te demande ta grâce parce que je ne sais pas comment je vais faire pour cet examen. Ok? Dans la simplicité de ma foi, j'ai prié comme ça. Le lendemain, j'arrive devant l'examen. La question est exactement la question qu'avait posée mon copain qui m'avait appelé au téléphone. J'ai eu 20 sur 20. Ça vous dit quelque chose? 20 sur 20. J'avais honte. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Et tous les gars me disaient, mais comment t'as fait, t'as 20 sur 20, etc. Bon, si vous voulez, on a un grand Dieu. Ok, alors l'exemple que je vous donne, je sais, il est un petit peu limite. Il faut travailler, c'est important de travailler. Ok, je dis ça parce qu'il y a deux jeunes là qui m'écoutent. Ok, c'est important quand même de travailler, de bosser. Je sais que vous êtes tous convaincus comme moi qu'il faut aussi faire les choses que nous. Mais il y a des moments où même quand tu es dans... Quand tu sais que tu n'as pas les moyens, que tu n'y arriveras pas, ça peut être les finances, ça peut être les études, ça peut être dans tous les domaines. Si tu t'appuies sur Dieu, tu vois des miracles. Parce que celui qui est en toi est beaucoup plus intelligent que même les plus grands professeurs. voyez. Je crois qu'il y a un texte dans le psaume 119 qui dit je médite sur ta parole et je suis supérieur à mes maîtres. Vous voyez, pas dans le sens de mépris, mais dans le sens de dire je peux avoir des réponses qui étonnent. Jésus, à 12 ans, a étonné tous les docteurs de la loi à Jérusalem. Ils étaient là, mais c'est qui ce prodige là? On lui posait des questions, il avait la réponse. Il connaissait la parole, il avait. Et dans un domaine très très particulier de l'interprétation des textes dans l'Ancien Testament, qui est un sport national millénaire chez les rabbins. Et un garçon de 12 ans, devant des hommes qui avaient étudié 80 ans dans leur vie, qui leur donnait les réponses. Il disait, mais comment il fait? Mais parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Oui, vous me direz, c'était Jésus, mais ce même Jésus habite en toi. Donc Dieu peut donner des réponses extraordinaires. Sur des points que personne ne comprend, Dieu peut donner la solution. Il suffit de lui demander. Pas pour épater la galerie, mais parce qu'à certains moments, on a besoin de Dieu. Voyez. Donc Dieu peut nous parler de tant de manières. Et on a besoin d'exercer notre foi, de réaliser, mais Christ vit en moi. Et le Saint-Esprit fait beaucoup de choses en nous. Et avant d'aborder tout ce que le Saint-Esprit peut faire, et c'est dans Romains chapitre 8, j'aimerais quand même ouvrir un moment aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez... des domaines où vous aimeriez savoir comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez faire, etc. Quelqu'un a une question?
Oui. On reçoit des songes, des rêves, oui, de Dieu, quoi.
Oui.
Quel est le système d'interprétation qu'il faut utiliser pour les expliquer?
Ouais, moi, comment dire, il y a d'abord, il faut peut-être discerner dans les rêves qu'on peut recevoir ce qui est de Dieu ou ce qui est pas de Dieu, dans le sens qu'il y a aussi il y a certains rêves qui sont juste vous savez qu'il y a un peu les événements de la journée qui se sont mélangés dans votre tête et puis vous rêvez et puis il y a tout qui se mélange, ça vous savez que c'est un rêve entre guillemets. Et puis il y a des rêves qui sont des songes, effectivement, au sens biblique du terme, c'est-à-dire que là vous, c'est quelque chose qui a rien à voir avec votre journée d'avant et vous savez que Dieu entra, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sur la, enfin qui est, il y a un message dedans, ok. Et même là, faut encore le présenter à Dieu dans la prière, dans le Seigneur. Est-ce que c'est bien toi qui m'as parlé? Parce que parfois, il y a des rêves qui sont d'ordre surnaturel, mais il peut y avoir des interférences, vous voyez. Donc faut vraiment demander à Dieu. On peut poser des questions à Dieu et Dieu va nous répondre, voyez. Et après, effectivement, parfois dans ces rêves, il y a des choses qui sont symboliques. On peut demander à Dieu, certains reçoivent l'interprétation, et là, je n'ai pas de clé particulière, mais il me semble que c'est très important, dans ce domaine-là en tout cas, de prier, de poser la question au Seigneur, vous voyez, éventuellement de le partager, parce que parfois, c'est comme, vous savez, Dieu parle, c'est comme un puzzle. Quelqu'un reçoit une pensée, quelqu'un reçoit un rêve, et puis vous mettez le puzzle ensemble, et quand on est ensemble, qu'on cherche ensemble la pensée de Dieu, là, on trouve, vous voyez, et vous réalisez que votre rêve était très important pour une direction pour l'Église, par exemple. Vous voyez? Et que si vous voulez garder pour vous en disant ben, « ça ne fait pas sens, je ne comprends pas, alors je vais mettre de côté ben, », partagez-le. On ne sait jamais. Ça peut faire sens pour quelqu'un d'autre que vous. Voilà, c'est un peu dans mon expérience. Mais je suis pas, c'est pas tellement un domaine d'expertise pour moi. Il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais rajouter. Voilà. Ouais, vas-y.
Non, je vous laisse terminer si c'était une deuxième question.
Non, vas-y, pose une question. Ou bien, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Parce que ce n'est pas un domaine où je suis très... Dieu me parle peu dans ce domaine-là, mais il y a des gens que je connais qui reçoivent souvent des rêves, et parfois c'est un peu énigmatique, mais on prie, et puis tout à coup, après qu'on se dit « Ah, ben oui !» Je vous donne un exemple. On a un frère, malheureusement, qui était très proche de nous au Mali, qui faisait partie de Jeunesse en Mission. Vous avez entendu parler de ce terrible accident en Tanzanie, où il y a eu 11 missionnaires Jeunesse en Mission qui sont morts dans un accident de bus. Il était dans le bus, et il est décédé. Et j'étais au Mali pour son enterrement, et j'ai parlé avec un frère Jeunesse en Mission, et il me disait, un ou deux mois avant, on avait une réunion de tous les leaders, et j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, il a vu ce frère qui était devant tous les leaders, qui marchait, tout à coup il a vu quelqu'un derrière avec un pistolet qui lui a tiré dessus. Il a entendu la détonation, et puis tout à coup, le frère qui était devant, il était mis derrière, comme ça. Et puis il s'est dit, c'est quoi ce truc? Vous voyez ? Et puis il l'a partagé. Et puis simplement, ce frère a dit, ben priez pour moi. Ça s'est arrêté là. Puis après, il est arrivé ce qui est arrivé. Et après, on peut faire plein d'hypothèses. Oui, mais peut-être qu'il aurait fallu prier plus et dire, ok, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, Seigneur ? Et comment on va intercéder ? Vous voyez ? Donc parfois, Dieu nous avertit. Mais ce rêve ne faisait pas vraiment sens. Après coup, quand vous savez qu'il y a l'accident, etc., vous dites « Ah, ok ». Parce qu'en plus, après, il a vu qu'il était avec lui dans un bus et qu'il y avait un problème, il cherchait à réparer le bus, il n'y arrivait pas. Donc il y avait le bus, il y avait, vous voyez, il y avait quand même des éléments qui étaient assez prophétiques dans tout ça. Mais quand vous entendez ça, vous dites « Bon, il y a un bus, il y a un pneu crevé, il y a un coup de pistolet, c'est quoi cette histoire ?» On a envie de dire « Bon, on met ça de côté. » Mais après, quand tu penses ce qui s'est passé, tu dis « Non, il fallait creuser, il fallait intercéder. » Vous voyez, il y a peut-être eu... Donc des fois, Dieu nous parle par un rêve, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre, ou c'est pour l'Église. Et Dieu a... comment dire, Dieu utilise tout le monde dans l'Église, vous voyez. Parfois c'est pour toi-même, parfois c'est très clair, parce que bon, là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de symbole, rien, c'est limpide, ça dépend. Vous voyez, donc en tout cas, il faut être attentif. Et au moins poser la question au Seigneur, intercéder, prier, le prendre au sérieux. Et puis si c'est pas de Dieu, ben ça va. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté parce qu'on se dit après tout, bon là franchement j'ai ni réponse ni rien. C'est peut-être voilà, c'est peut-être pas nécessaire de pousser plus loin. Tu voulais parler.
Oui, je me demandais, est-ce que dans la destinée d'un homme, souvent on dit tout est écrit, mais est-ce que réellement tout va s'accomplir malgré nos choix et nos décisions ou... Tu as déjà mis sa part dans l'objectif.
Alors c'est une grande, enfin c'est un peu une grande question, tu vois, sur la prédestination qui est assez débattue, mais je vais te répondre d'une manière assez pratique pour t'aider. J'étais avec mon pasteur qui m'a formé, et de temps en temps il y avait des prophètes qui venaient, d'accord? Et il avait reçu une prophétie il y a très, très longtemps avant, dans une grande convention, et c'est, qui était très précise sur des choses que Dieu lui confiait, et des points particuliers. Et puis, des années plus tard, il y a une prophétesse qui vient dans l'église, et qui lui dit quasiment mot à mot les mêmes choses, et qui ne pouvait pas connaître ces choses, vous voyez, je veux dire. Et là, j'ai eu comme j'ai réalisé quelque chose. Et je pense que c'est biblique, même si on n'a pas tous les détails. Mais c'est comme si sur ta vie, parce que Jésus, quand il vient sur la terre, il dit dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Et quand il est à Nazareth, il ouvre le rouleau d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et donc il trouve le passage qui concerne son ministère sur la terre. Ça, c'était écrit. Tu vois, je veux dire. Mais c'est écrit dans quel sens ? Ça ne veut pas dire que, oui, évidemment, Dieu... qui nous dépasse largement, il sait tout, ok. D'accord ? Mais là, on rentre dans le mystère de Dieu. Mais de manière plus pratique pour nous, ça veut dire qu'il y a des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2:10. D'accord ? Il y a des œuvres préparées d'avance. Et ça, c'est écrit. Et tu le retrouves même dans des passages bibliques qui te concernent. Tu vois ? Ou dans des prophéties qui te sont données, qui sont nourries par la parole de Dieu, parce que la prophétie doit toujours être nourrie par la parole de Dieu et conforme à la parole de Dieu. Tu vois ? Mais qui souligne simplement des choses qui sont déjà dans la parole. Et donc, oui, il y a des choses qui sont là et qui concernent ta vie de manière spécifique. OK ? Et donc, pour moi, c'est comme si... Viens par là, je vais t'expliquer. Viens vers moi. C'est Joël, c'est ça ?
C'est Joël.
C'est comme si tu es là et imaginez qu'au-dessus de Joël, il y a un rouleau, il y a quelque chose qui est écrit. D'accord ? Mais on ne peut pas le voir, c'est dans l'invisible. Si je suis prophète, je vois ce qui est écrit. Et je peux lui dire, tu vas faire ça, Dieu a prévu ça et ça et ça. Ensuite, Joël passe 2-3 ans, il fait ses études, etc. Je sais pas, il travaille, etc. Puis un jour, il y a un autre prophète qui vient. Il voit le même écrit et il va dire la même chose. Parce qu'il voit la même chose, parce que c'est sur sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu peux aller à ta place, merci. Donc ça marche un peu comme ça. Je dis pas que c'est, je sais pas dans le monde spirituel comment ça fonctionne, mais ça ressemble à ça. Je ne suis pas en train de vous faire une nouvelle doctrine, vous voyez, mais dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, vous prenez l'exemple de Jésus, et vous rendez compte, et même Paul se rendait compte qu'il rentrait dans des prophéties bibliques, parce que quand il va aller jusqu'en Espagne, il est en train de suivre exactement Ésaïe 66, qui parle des nations qui vont entendre l'évangile et qui donne l'ordre dans lequel les nations vont entendre l'évangile. Et il a suivi le même ordre. Donc je pense que Paul était conscient, certains missiologues estiment, en comparant Ésaïe et les Actes des Apôtres et les lettres de Paul, que Paul était conscient de suivre un plan biblique qui se trouve dans Ésaïe 66. Et quand il écrit aux Romains, il dit « il faut que j'aille en Espagne ». Parce qu'il sait que c'est écrit. D'accord ? Il sait qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et sur votre vie, il y a des choses qui sont écrites, mais qui sont même dans la parole de Dieu, quelque part. Et vous avez des passages bibliques qui vous concernent. Qui vous concernent. Ok ? Et donc, quand vous priez, ou quand vous êtes dans une atmosphère prophétique, ces choses vous sont révélées. D'accord ? C'est les promesses. C'est les promesses. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Et des fois, c'est spécifique. On n'a pas tous la même chose à faire sur la terre. Vous voyez, je veux dire. Parfois, c'est plus spécifique. Et ça, c'est dans le domaine prophétique. Et donc, quand tu maintenant, la deuxième question, la question que tu as posée, c'est est-ce que nécessairement ça va se passer ou est-ce que ça dépend de nos choix ? On peut retarder les plans de Dieu. Ça, c'est une certitude. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour nous et on le retarde parce qu'on est désobéissant, parce qu'on est distrait, parce qu'on ne se met pas à part. On peut même passer carrément à côté, au final. Ok. Alors, après, certains parlent du fait que c'est comme si Dieu avait un plan A et un plan B. Donc là, je ne sais pas. Parce que ça, c'est les grandes spéculations des théologiens sur la prédestination. Mais concrètement, on sait qu'il y a des choses qui ont été dites. Par exemple, Jéroboam. Tu prends Jéroboam ce matin. Il avait une prophétie. Si tu obéis au commandement comme David, je te bâtirai une maison stable. Tu vois que sur plusieurs générations, peut-être même sur 50 générations, je ne sais pas, 20 générations, eh bien, ils auraient régné sur Israël et ils auraient été comme David. Mais il n'est pas entré dans la prophétie parce qu'il n'a pas rempli les conditions. Il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Vous voyez ? Et donc, et c'est là que souvent, on se méprend par rapport à ce que j'appellerais les prophéties personnelles. Parce qu'on a des prophètes qui viennent vous donner des paroles qui sont personnalisées. Voilà, je vois sur ta vie, etc., etc. Et on fait deux erreurs. On fait même trois ou quatre erreurs. Je vous donne juste les erreurs en une par une. La première erreur, c'est de ne pas évaluer le prophète qui te parle. Tu as le droit de l'évaluer. Quand je dis l'évaluer, c'est pas lui faire remplir un questionnaire. C'est pas l'emmener au poste de police. Tu vois, je veux dire. Mais c'est de dire, attends, c'est qui cet individu qui vient profiter sur moi ? S'il est invité par ton pasteur, c'est que ton pasteur l'a déjà évalué. Donc déjà, tu as une sécurité. Tu vois ? Donc, mais nous, on a vécu ça deux fois dans notre église à l'époque. Et on a eu une fois, je vous donne un exemple, quelqu'un qui était un homme de Dieu remarquable, avec un ministère, enfin avec des dons spirituels extraordinaires. Et puis, on voulait une recommandation. C'est biblique. Je vous recommande notre sœur Phoebe. D'accord ? Parce qu'il y a des ministères, pardon, qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre, et on peut les recevoir, mais on a besoin, en tant que pasteur responsable, et vous êtes des futurs responsables, vous allez, dans l'avenir, des fois gérer ce genre de situation, on a besoin de recommandations, parce qu'il y a des loups, ça existe. Et on appelle un pasteur en Angleterre, qui connaissait ce pasteur qui venait d'Italie, qui était d'origine indienne, et on lui dit, mais est-ce que tu le connais ? Parce qu'il faisait partie un peu des milieux, de nos milieux. Il dit « Oui, mais faites attention, cet homme a un esprit de division. » Mais nous, on s'est dit « On craint rien, nous. » D'accord ? C'est pas grave. On l'invite. Et effectivement, il avait un ministère de miracles. Il y avait un jeune qui avait le nerf sectionné, son petit doigt pendait comme ça. Et il nous disait « Il va falloir que je me le fasse enlever parce que c'est dangereux d'avoir un petit doigt qui n'a pas de... » D'accord ? Et pendant la réunion, ça je le savais parce que le jeune faisait partie du groupe de jeunes et donc il me l'avait dit. Et pendant la réunion, moi je traduisais et il dit voilà, le Seigneur me montre et il dessine, il dit voilà, je vois un petit doigt, le nerf est sectionné là et Dieu te guérit. Et instantanément, le gars était guéri. Son petit doigt s'est remis à fonctionner. C'était un miracle parce qu'un nerf qui, vous voyez, je veux dire, c'était une parole de connaissance. C'était, bon, j'étais là, waouh, d'accord. Donc le gars il avait vraiment quelque chose. Vous suivez? Donc jusque-là, tout va bien. Voilà que le dimanche matin arrive, il prêche, il commence à dire des trucs, je sais, Mais je traduis pas, j'étais gêné. Comment ça parlait du pasteur, comme quoi le pasteur, c'était pas le bon pasteur pour l'église, qu'il fallait un autre pasteur. Vous voyez ? Il a failli nous démolir l'église. Il avait un esprit de division. On n'a pas écouté l'avertissement. Donc on doit évaluer, même quelqu'un qui a des dons spirituels à te faire tomber par terre. Vous voyez ? On avait un autre qui venait du Brésil, qui avait une des paroles de connaissance à tomber par terre, quoi. D'une précision, mais, je veux dire, tête chercheuse, tac. Hier, t'as prié ça dans ta prière. Puis là, le gars, la personne se met à pleurer. Alors là, tu te dis, t'as presque envie de te mettre à quel homme de Dieu nous a visités, etc. Puis après, il y a des paroles de connaissance, il disait à tout le monde, je vois le Brésil sur ta poitrine, je vois le Brésil sur ta poitrine, la carte du Brésil. Et ils étaient presque en train de prendre leur billet pour tous se suivre en Brésil. Et puis finalement, on s'aperçoit que alors il y avait une sorte de groupe. On était vraiment fautif encore plus parce que quelqu'un dans l'église avait un don de discernement. Il nous avait dit attention, je vois un esprit de mort sur cet homme. Vous voyez. Et le pasteur me disait je peux pas, je sens qu'il faut pas qu'on me prenne. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait invité, qui faisait pression. Finalement, il dit bon. Et puis hop, le loup est entré dans la bergerie. Ils avaient prié sur la montagne à côté, ils faisaient des réunions de prière avec des membres de l'église, c'était devenu un bazar, on a failli perdre l'église. Un loup qui était, et pourtant, un don, une parole de connaissance, vous voyez, on a un complexe en France, dès que quelqu'un a un don spirituel, non, le Saint-Esprit habite en toi. Le gars qui a un don spirituel, il n'est pas plus grand que toi, le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le même, et il faut qu'il y ait une connexion. Donc, deuxième chose, si maintenant cette personne est reconnue et approuvée, si tu veux, et recommandable, tu vas écouter ce qu'il va te dire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est recommandé qu'il ne peut pas faire d'erreur. Vous voyez ? Parce que, voilà, l'erreur est humaine. Et puis, il arrive que la personne ne soit pas en forme ou qu'elle se laisse un peu... elle a une pensée, mais après elle en rajoute un petit peu, etc. Enfin, tout peut arriver. Hein. Et donc, la deuxième règle, c'est est-ce que... ce que tu reçois correspond à quelque chose que Dieu t'a déjà dit. Est-ce qu'il y a un écho dans ton cœur ? Tu vois ? S'il y a un écho dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire que oui. En général, ces paroles sont là pour confirmer quelque chose que Dieu a déjà mis dans ton cœur. Ou s'il n'y a pas d'écho dans ton cœur, puis écoute, Seigneur, si vraiment ça vient de toi, peut-être que moi je suis un peu bouché, d'accord ? Je suis un peu... ma vie spirituelle est tellement basse qu'en fait tu me l'avais dit, mais je n'ai jamais tenu compte. Donc je laisse ça de côté, j'attends et je prie pour voir si tu me le confirmes. Il faut qu'il y ait une confirmation. Tu ne vas pas partir en Chine comme missionnaire si sinon tu n'as pas parlé à toi d'abord. Le prophète m'a dit qu'il fallait que je me marie avec un tel. Ah ben, surtout ne te marie pas. Hein. Surtout ne te marie pas. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ne te marie pas. Vous comprenez ? Même pour le mariage, Dieu peut nous parler. On a le Saint-Esprit, oui ou non ? Moi, je crois à ces choses. Je sais qu'il y a un grand débat parmi les jeunes sur Instagram, partout, parce qu'avec mes enfants, on en parle de ça. Hein. Un grand débat sur savoir est-ce qu'il faut que Dieu nous parle ou est-ce qu'on peut juste choisir comme ça, suffit. Vous voyez ? Non, Dieu parle. Dieu m'a parlé. Bon, à un moment, l'avantage, c'est que quand Dieu m'a parlé pour ma femme, je pensais ni mariage. J'étais pas du tout dans ce mood-là. J'avais 19 ans. Moi, les questions de mariage, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais dans un autre monde. Vous voyez, je veux dire, j'ai un âge où, voilà. Et quand je salue Elisabeth dans une convention et que le Seigneur me dit « Ce sera ta femme », alors c'était pas audible, mais presque. C'était tellement fort que j'ai presque reculé en disant « Ah bon ?» Vous voyez, j'étais ni amoureux. C'est pas que je la trouvais pas belle, mais c'est pas que... Il y avait rien et c'était pas du tout un coup de foudre. Hein. C'était Dieu qui me disait « Ce sera ta femme ». Et c'est seulement après que les sentiments sont venus. Vous voyez ? Et c'est 5 ans après que j'ai demandé en mariage. Et après, elle a prié, parce qu'elle avait cru que le ciel lui tombait sur la tête, parce que moi, pas très romantique du tout, je lui ai écrit une lettre, je la demande en mariage. Là, c'était une erreur, par contre. Vous voyez ? Dans la manière, c'était une erreur. Mais sur le fond, j'étais tellement sûr de moi, enfin, pas de moi, j'étais tellement sûr de ce que j'avais entendu, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le moment de marier, j'écris « Je te demande en mariage ». La pauvre fille. Enfin, elle me supporte encore aujourd'hui. Mais Dieu parle. Ok ? Mais Dieu te parle à toi. Même si c'est un grand prophète, tu dis « Seigneur, moi je veux bien, mais il faut que tu me le dises à moi. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait un écho dans mon cœur. Et là, ça devient intéressant. Parce que s'il y a confirmation, tu dis, ah, la troisième fois que le Seigneur me dit, il faudrait peut-être que je me bouge maintenant. Troisième erreur. Dieu t'a parlé. Le prophète est, recommandé. Le prophète a parlé de la part de Dieu. Il y a un écho dans ton cœur. Très bien. Et tu vas faire quoi ? Si tu n'obéis pas, il n'y a rien qui va se passer. 80 ans plus tard, le Seigneur m'avait dit dans une prophétie, ça ne s'est jamais arrivé. Mais bien sûr que ça ne s'est jamais arrivé. Tu t'es même pas mis à genoux. Tu n'as même pas... Vous voyez, tu n'as pas fait l'ABC de ce qu'on doit faire en tant que chrétien quand Dieu nous parle. C'est quoi ? Obéir. Si Dieu te dit que... Si Dieu te dit qu'il veut que tu deviennes... Que tu conduises son peuple en tant que pasteur ou que... Eh bien, mais tu te mets à prier, tu dis, Seigneur, ok, comment je vais me former ? Qu'est-ce que tu mets en route ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Parce que Dieu t'a parlé, tu vas obéir. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a une prière, il y a quelque chose à creuser. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec de l'oisillon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu collabore avec toi. Pour répondre à ta question, il y a une collaboration entre Dieu et nous, toujours. On n'est pas des automates, on n'est pas des oiseaux dans un nid qui attendent qu'on vienne nous mettre la becquetée. On doit creuser dans la parole, on doit s'interroger, on doit prier, on doit enquêter, on doit... Vous voyez, par exemple, pour vous donner mon propre exemple, j'ai reçu plusieurs paroles. La première, c'était... Pourquoi je suis à Marseille aujourd'hui ? Je vous dis en deux mots. Vous voyez comment une question ça fait une longue réponse. Après j'arrête. Ou bien est-ce qu'il y a, je veux pas. Peut-être que ça je peux le mettre de côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant ? Parce que la question était tellement intéressante que j'aurais pu m'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça va ?
Peut-être la question. Est-ce que tu fais une différence entre voyant et prophète ? Ou c'est pareil ?
Alors je pense qu'il y en a une quand même puisqu'il y a les deux mots en hébreu. Nabi et Razoul, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais, non, pas Razoul, mais Rosé. Je pense qu'effectivement, il y a des prophètes qui sont plus dans le domaine de la vue, qui voient vraiment des choses dans le monde surnaturel, qui peuvent voir sur quelqu'un des choses, qui peuvent voir des visions comme ça, mais même pas dans, c'est même pas des songes, hein, s'ils le voient en direct. Et puis, il y a des prophètes qui sont plus en termes de. Qui reçoivent des paroles.
Comme Élisée, quoi, qui voyait.
Oui, Élisée voyait, absolument. Donc il y a des prophètes qui voient, et des prophètes qui entendent. Je pense qu'il y a un peu les deux. Mais en dire plus, ça me serait difficile. Le problème, c'est que la voyance en France est devenue tellement prégnante que aujourd'hui, si tu dis que tu es voyant, ça va être mal interprété. Mais en réalité, là, on peut dire que c'est le monde qui nous a volé quelque chose, ça c'est sûr. Parce que dans la Bible, les gens voyaient. Et aujourd'hui encore, vous avez des chrétiens qui voient. Dieu leur montre, ils voient. Carrément, ils voient des choses. Voyez. Et donc, ça, c'est précieux pour le corps de Christ. C'est très précieux. On a besoin de ça. On doit être capable. Il faut juste veiller à une chose. C'est que... Mais ça, votre pasteur est bien au courant là-dessus. C'est que quand quelqu'un se donne au Seigneur, c'est de faire un vrai ménage au niveau spirituel. Parce que parfois, vous avez des héritages ou des choses que vous avez attrapées au niveau des ancêtres dans l'occultisme, etc., qui fait que vous avez une sensibilité au monde spirituel, et on va croire que vous avez un don de prophétie, alors que ce n'est pas du tout un don de prophétie, ça vient des ténèbres. Et un méchant mélange. Donc il faut qu'à la conversion, les choses soient bien... Vous voyez ? Et là, il faut renoncer à ces dons que certains ont reçus dans l'héritage, un héritage familial, mais avec des esprits familiers dans les familles, qui sont des esprits de ténèbres. Il faut renoncer à tout ça, et après, Dieu peut te donner les dons du Saint-Esprit, c'est autre chose. Vous voyez ? Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Ou bien, vous savez que la conversion nécessite un renoncement. On ne rajoute pas Jésus à ce qu'on a déjà. On enlève tout, on renonce à tout et on prend Jésus. On renonce au diable et on accepte Jésus-Christ. Si tu n'as pas renoncé au diable, si tu n'as pas renoncé au péché, ta conversion n'est pas une vraie conversion. Hein ? Ça, c'est très important. Et vous le trouvez dans 1 Thessaloniciens 2, 9, je crois. On va juste le lire parce que c'est très très important. Et après, je voulais vous parler de quoi déjà ? Je ne sais plus. Ça va me revenir. Ah oui. Oui, comment on travaille sur une prophétie ? 1 Thessaloniciens 1, verset 9, c'est pas 2, c'est 1, verset 9, on raconte à nos sujets quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, comment ? En vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, j'étais sur les idoles, avec les esprits qui sont derrière, ça pouvait être le matérialisme, c'est la religion qui marche le mieux dans le monde, vous savez ça. D'accord ? Donc je me détourne de ces idoles, ou bien c'était le fétiche du village où mon grand-père était né, vous voyez, tout ça. Je renonce à tout ça, je suis libéré de tous ces liens, et puis je me tourne pour servir Dieu vivant. Mais si je veux faire les deux en même temps, ça ne marchera pas. Ok ? C'est comme ça que tout à coup, vous avez des loups dans l'église, des gens qui se lèvent, qui détournent les disciples, parce qu'ils ont, en fait, leur conversion est factice. Les liens n'ont jamais été coupés. Ces gens deviennent dangereux pour le corps de Christ, parce qu'on n'a pas fait, parce que quelque chose est rentré en sous-marin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, ces gens eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Vous voyez ? Ils sont eux-mêmes des chevals de Troie dans l'église, mais ils sont sincères, ils aiment le Seigneur, mais voilà. Donc c'est très important, la délivrance, c'est très important. Ok ? Faut pas faire l'économie de ça. J'avais reçu une parole comme quoi j'étais quelqu'un dans le désert qui cherche un point d'eau. Et puis une autre parole, comme Abraham, tu vas dans le pays que je te montrerai. Donc j'étais parti de Annemasse. Enfin, j'avais dit je partais, mais je savais pas où. Et finalement, Colin Dye, je le traduis dans une conférence, me dit dans la voiture, je vois que tu as pas d'horizon là où tu es, mais viens chez nous à Londres quelque temps et après tu sauras. On part à Londres, je résume très très vite, hein. On part à Londres avec ma femme et mes trois enfants. Quand j'arrive là-bas, week-end prophétique, il m'invite, il déroule une carte et dans la partie du week-end prophétique qui parlait de la mission, on voit l'Afrique du Nord avec des flèches qui viennent du sud de l'Europe, d'autres qui viennent du Sahel et tout un plan prophétique par rapport au monde musulman. Et là, le Seigneur me dit, je sens dans mon cœur, c'est pour ça que je t'ai fait sortir d'Annemasse. Tu vas faire partie de ce plan quelque part. Donc j'ai déjà une parole, vous voyez, il y avait eu le désert, Abraham dans le désert, tout ça, je ne comprenais pas pourquoi il y avait le désert. Là maintenant le désert il est sur la carte, donc ça commence à prendre sens un peu plus, vous voyez. Et puis bon, 2 ans plus tard, enfin on reste une année, puis au bout d'une année c'est renouvelé encore une année, c'est là que j'ai traduit les livres de Colin Dye. Et puis la première année, puis la deuxième année il me dit tu arrêtes de traduire ces livres parce que tu vas devenir fou, tu fais que la traduction, il faut maintenant que tu t'occupes de la mission. Lui, il ne savait pas tout ce qui se passait dans mon cœur, je n'avais rien dit. Et donc, je commence à travailler sur cette question. Je vais sur Internet, je fais des recherches sur qui travaille parmi les musulmans, dans les différents pays en question, le sud de l'Europe, etc. J'ai regardé un peu Marseille, Malaga, sud de l'Espagne, j'étais jusqu'à Malaga, il y avait des... etc. Enfin, je travaille sur la question. Ensuite, on voyage au Mali, etc. Enfin, vous voyez, je savais qu'il y avait une parole, mais on a travaillé dessus. Ok ? Au bout de 2 ans, Colin Dye est un farceur. Enfin, un farceur dans le sens qui vous surprend toujours. C'est un homme assez prophétique. On est devant tous ces leaders, et il m'invitait toujours. J'étais assis à 2 chaises de lui, à venir, alors que moi, je n'étais pas vraiment un leader dans l'église, j'étais là comme un invité quelque part. Et je savais que j'étais là pour un temps. Et puis moi, je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais manger. Je me dis, ça fait 2 ans que je suis là, qu'est-ce que je vais faire après exactement ? J'avais pas de... J'aurais aimé que Dieu me dise, Jean-Luc, voilà, dans une semaine tu fais ça, dans 15 jours tu fais ça, dans 6 mois tu fais ça. Mais j'avais juste la grande image, mais c'est tout. Et puis, tout à coup, il se tombe vers moi et me dit, alors Jean-Luc, ça fait 2 ans que tu es avec nous, où est-ce que tu vas aller ? Il a été tellement généreux avec nous. Et vous savez, dans votre tête, dans ces moments, ça va très très vite. Hein, parce que vous êtes devant tous les leaders, c'est le pasteur principal, c'est une grande église de 10 000 membres, tout ça, qui vous dit, où est-ce que tu vas aller ? Ça fait 2 ans que tu es avec nous. Qu'est-ce que j'allais lui répondre ? Je me dis dans ma tête, je ne veux pas lui dire que je ne sais pas, parce que quelque part je sais. Je ne veux pas dire que je sais parce que je ne sais pas. Vous voyez un peu le dilemme. Bon. Mais je ne peux pas ne rien dire parce que ce serait... Ils ont été tellement généreux avec nous, il faut que je dise quelque chose. Je dis la première chose qui me vient, je dis je vais à Marseille pour ouvrir une école biblique. C'est sorti comme ça. Et après je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit Jean-Hugues ? Mais qu'est-ce que tu as dit ? Vous voyez, la conduite de Dieu, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Pas toujours aussi, vous voyez, tout écrit à l'avance, etc. Il me dit, mais à Marseille, une école publique, où est-ce que tu vas trouver les étudiants ? Bon, on parlera ça plus tard. Puis après, moi, je ne vois plus parce que lui, il voyage, etc. Donc, on fait nos valises, on part. J'arrive chez mes parents dans le sud de la France, et je me dis, mais maintenant, je vais faire comment? J'ai jamais mis les pieds à Marseille de ma vie. Je connais pas Marseille. On n'a pas un sou, parce que nous, on n'avait jamais acheté au niveau appartement, etc. Londres, c'est très très cher, donc la caisse était vide. On savait même pas où on allait mettre nos enfants à l'école, où est-ce qu'on allait habiter, etc. Enfin, bon, vous voyez, on était plein. C'était quoi, mois de juillet. On est arrivé là, mois de juillet. Mes deux fils étaient dans une colonie de vacances. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je prie pendant une semaine, je prie. Vous voyez. Et puis, finalement... Ah oui, alors, d'abord, j'ai ma femme, on dit aux... Après, nos enfants sont rentrés de colonie de vacances. J'ai ma femme, allez, on leur dit qu'on va à Marseille pour aller au bord de la mer. Parce que les enfants, ils savaient rien. Vous savez, quand on est... Vous savez, la vie pour suivre le Seigneur, c'est pas toujours... Et donc, on va à Marseille au bord de la mer. Et puis là, quand je suis à Marseille, je regarde. J'ai l'impression d'être en Algérie. Je dis à ma femme, on connaît personne ici, mais quand... On n'est pas prêt, on n'a pas ouvert une école biblique comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai... Je savais qu'il y avait quelque chose de Dieu dans l'affaire, mais c'est pas possible. Et puis c'est là que, bon, finalement, Dieu nous conduit d'aller à 9h pour préparer le projet à Marseille. Et quand je suis à 9h, tout ça, Colinda, il ne savait rien. Coup de téléphone au mois de... Les enfants, on les inscrit vite à l'école, etc. On trouve une maison gratuite pour nous. On a vécu gratuitement dans une maison pendant 2 ans à 9h, je ne sais pas si vous savez. Quand Dieu conduit, il conduit. Parce que le pasteur, je l'appelle, je lui dis, tu m'avais dit une fois que je pourrais venir t'aider. Il me dit, c'est bon, tu veux venir pour une année. Finalement, on est resté 2 ans. J'ai une maison pour toi, gratuite. Ok. Et en fait, il m'a dit après, ça faisait 2 ans qu'on priait pour que tu viennes. Moi, je ne savais pas. Mais nous, on pense qu'on a... Voilà, on aimerait que Dieu nous dise tout. Mais il ne te dit pas tout, le Seigneur. T'es un soldat, c'est tout. Un soldat, il ne discute pas. Il est détaché là, et tac, il revient, tac, tu dormiras dans la forêt ce soir, tu redormiras à la caserne demain, t'es un soldat. T'as consacré ta vie, oui ou non? T'as consacré ta vie, tu discutes pas. Enfin, là, j'ai un peu discuté quand même. Donc finalement, je dis, mais Seigneur, je peux pas aller à Nevers, c'est pas la bonne direction, etc. Moi, je vais à Marseille. Mes parents habitent à Avignon. Mais j'ai eu la paix, j'ai compris que c'était de Dieu, on va là-bas. Quand j'arrive là-bas en octobre, coup de téléphone de Colin Nye, je dis bonjour. Il dit, bonjour Jean-Hugues, où est-ce que tu es? Il dit, je suis à Nevers. C'est où Nevers? C'est les Anglais, Nevers. Je lui dis, c'est un peu au sud de Paris, là, etc. Il dit, moi, je suis à Marseille et je t'attends. Ok, je prends le train, je viens te voir. Il me dit, j'ai loué un appartement et je t'attends. Donc j'arrive là-bas. Il me dit, moi, ça faisait 10 ans que je priais pour Marseille, tu ne le savais pas. Et quand tu as dit que tu allais à Marseille, j'ai pris comme venant du Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à Marseille? Si tu veux, je peux t'aider. Ah oui, je veux bien. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, vous voyez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis à Marseille, je suis maintenant avec... j'ai un pied en Algérie, enfin, je veux dire, en Afrique du Nord, pour ceux qui connaissent un peu Marseille. Et ça y est, ça a pris des années, tout ça, mais on a travaillé. Il y avait une parole. C'était pas hyper clair. Mais on s'y est mis, vous voyez. Si vous avez une prophétie, vous avez une parole, travaillez, priez, cherchez, enquêtez, poussez toutes les portes, essayez, regardez. Et Dieu est avec vous. Parce qu'en fait, Dieu aime travailler avec vous. Dieu s'ennuierait à mourir, excusez-moi l'expression, si je peux me dire ça comme ça, s'il devait tout faire lui-même. Il n'a pas envie de tout faire lui-même. Regardez nos enfants, les petits-enfants. Moi, quand j'étais enfant... À la cuisine, ma mère faisait la vaisselle. L'évier était assez haut pour un petit garçon haut comme 3 pommes. Donc, elle me mettait un tabouret. Je montais sur le tabouret, je faisais la vaisselle avec elle. Et puis, je cassais une assiette de temps en temps. D'accord? Mais c'était plus sympa pour ma mère de faire la vaisselle avec son fils de 4 ans que de la faire toute seule. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les parents, quand ils voient les enfants qui commencent à travailler avec eux, ils sont contents. Ça leur perd du temps, on casse des assiettes. Mais c'est 100 fois plus drôle que de faire tout seul. Et Dieu, il n'a pas envie de tout faire tout seul. Ça l'intéresse pas. Il a envie de faire avec nous. Il sait qu'on va faire des erreurs. Il sait qu'on va casser des assiettes. Mais il préfère faire avec nous et nous voir grandir que de faire tout seul. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Si on peut prendre cette image, vous voyez? En tout cas, Dieu a pris le risque de travailler avec des gens comme nous. Il prend des risques énormes. Hein, c'est parce qu'il nous aime. Donc si toi, tu t'y mets... À un moment donné, on a un problème parce qu'on est trop proche de Vaux-sur-Seine avec Calvin, d'accord? Il faut se libérer de ce problème, c'est la prédestination calviniste. Donc, tout est écrit d'avance, mais tellement écrit d'avance qu'il faut vraiment que ce soit Dieu qui me soulève la main pour que je loue le Seigneur. Si ce n'est pas lui qui me soulève la main, je ne soulèverai pas les mains. Vous voyez ? Et je resterai comme ça toute ma vie. Non ! Dieu t'a créé avec une liberté, avec des choix, avec une intelligence, et il aime même Dieu aime consulter ses prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir dit son secret à ses prophètes, Amos 3:7. Jérémie dit, qui est-ce qui a assisté au conseil de l'Éternel ? Vous qui vous dites prophète là. Moi j'y ai été, je connais. J'ai vu les anges, comme le prophète Michée dans 2 Rois 1 ou 2 Rois 22. J'ai vu le conseil des anges, j'ai participé au conseil, Dieu m'a interrogé, je lui ai dit, voilà moi ce que je ferai à ta place. Enfin, là c'est moi qui brode un petit peu. Mais Dieu dit à Moïse, je vais les détruire. Non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Seigneur se repent de ce qu'il voulait faire. C'est fort quand même. Ok ? Dieu dit à Abraham, je détruis Sodome et Gomorrhe. Seigneur, c'est à 50 justes, c'est à 45 justes, 40 justes. Et il lutte avec Dieu dans la prière. Donc Dieu nous fait participer à ses plans. On écrit l'histoire avec Dieu, les amis. Parce que Saint-Esprit habite en nous. On n'est pas des automates, mon gars. Joël, t'es pas un automate. Dieu veut collaborer avec toi. Mais il peut pas le faire si t'es pas à l'écoute. Si tu prends pas une heure, deux heures, t'as coup un samedi matin, tu disparais, tu dis je vais dans la forêt, il y a des grandes forêts ici. Allez parler avec le Seigneur. Et si t'as des dilemmes, Seigneur j'aimerais me marier, je comprends pas, j'arrive pas, etc. Tu vas, comme disait mon vieux pasteur, quand il avait 29 ans, il était toujours pas marié, il en pouvait plus, il allait tout seul dans la forêt, à Salanches, dans les montagnes, il criait, il disait Seigneur, c'est pas juste. Vous voyez ? Finalement Dieu a répondu. Mais Dieu aime qu'on lui dise que vous voyez, parce que sinon c'est pas drôle, ni pour Dieu ni pour nous. On n'est pas des automates. On collabore avec Dieu. Votre salle de prière là. Encore une fois, ça me travaille votre histoire. J'ai jamais vu une église qui investit comme ça dans la déco pour une salle de prière. Jamais vu. En général, les salles de prière c'est des gourbis, t'as des vieux cartons qui traînent, t'as de la poussière et puis on va. Alors là, c'est nickel, votre salle de prière. D'accord ? C'est qu'il y a une vision derrière. C'est-à-dire, Seigneur, nous, pour être avec toi, on veut le meilleur. D'accord ? On est prêt à ce que le reste soit pas top, mais ça, par contre, il faut que ce soit top. Ça dit quelque chose, non ? Ça dit quelque chose. Vous avez un privilège énorme d'avoir votre leadership qui a une vision comme ça. C'est du jamais vu, ça. En France, mais c'est extraordinaire. Moi, je vous dis que c'est extraordinaire. Dieu a un plan. Donc, il y a ce potentiel qui est là. Je me calme, j'arrête. Est-ce qu'il y a encore des questions ?
Il y a le quatrième. Là.
Oui.
Le quatrième, erreur à ne pas commettre.
Pardon ?
Il y a la quatrième erreur à ne pas commettre.
Ah, la quatrième, j'ai dit quatre erreurs. Alors, attends. La première, évaluer le prophète. Le deuxième, il faut que la parole corresponde. Qui est un... D'accord ? La troisième, c'est de ne pas prier et d'attendre que ça tombe tout cuit dans le bec alors qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais plus à quoi je pensais dans la quatrième, mais il y a une chose qui vient un peu en amont, c'est que, quelle que soit la prophétie que vous entendez, il faut quand même que ce soit dans le cadre de la parole de Dieu. Vous voyez, quand on dit biblique, ça ne veut pas dire qu'il y a... Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous citer trois versets et ne pas être biblique. Ok ? C'est facile. De vous citer des versets et puis les détourner pour aller ailleurs. Mais quand on dit quelque chose qui est biblique, c'est quelque chose qui résonne avec l'ensemble du message de la Bible. Vous savez, et Saint-Esprit en vous témoigne, non, ça c'est ma parole. Comprenez ? Mais si quelqu'un te dit, voilà, ça fait 15 ans que tu es marié avec cette femme ou avec cet homme, il n'est pas assez spirituel, maintenant il faut que tu te maries avec une autre, tu te dis qu'il y a un souci. Il y a un léger souci. Comprenez ? Là, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Mais je vous dis ça parce que ça arrive malheureusement dans le corps de Christ. Les loups, ils sont là, d'accord ? Les gens un peu spéciaux là. Donc, non, il faut que ça corresponde aussi. Si tu as, c'est un critère très important. C'est pour ça que si tu lis la parole chaque jour, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir la science, la science de tous les mystères, comme dit Paul, d'accord ? Mais si tu lis chaque jour ta parole, et une chose qui est importante, mes amis, et je sais qu'ici vous êtes dans une église qui est très, protestante, mais quand tu es jeune, veille à avoir lu toute la Bible, au moins une fois. D'accord ? Si possible, même plusieurs fois. Ne lis pas toujours les mêmes textes, et ne néglige pas. Toute écriture est utile pour former l'homme de Dieu. Toute écriture. Ça veut dire que toutes les écritures ont un message pour toi. Même les petits prophètes, même le Lévitique, même les généalogies, lis tout. Même si tu ne comprends pas, tu lis tout. Moi, je fais ça depuis l'âge Enfin, je lis la Bible depuis l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et tous les jours, je la lis. Je n'ai jamais arrêté de la lire. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu un jour, je ne l'ai pas lu, mais tous les jours, je la lis. C'est une habitude dans ma vie. Vous voyez ? Et ça m'a gardé, ça m'a protégé, vous ne pouvez pas savoir comment. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Et donc, si tu es béni dans la parole comme ça, et que tu as ce contact le matin avec la parole de Dieu, tout ce qui est un peu étrange en termes de prophétie, tu vas le scanner direct. Parce que la parole te protège. Tu vois ? Et ça, c'est pas sur le moment quand tu as la prophétie que tu commences à fouiller dans la Bible en disant est-ce que c'est biblique ou pas. Tu peux pas le savoir. C'est parce que tu es dans la parole avant, en amont, que tu as une sorte de quelqu'un disait, t'as jamais vu un faux billet de 15 euros. D'accord ? Les faux billets, c'est des faux billets de 10 euros ou de 20 euros. Mais les grands spécialistes de la fausse monnaie disent que pour reconnaître, dans les banques, pour reconnaître un faux billet, il faut bien connaître les vrais billets. Si tu connais bien les vrais billets, tu reconnaîtras un faux billet. Si tu connais bien la parole de Dieu, tu vas tout de suite discerner, ça ne colle pas. Maintenant, si quelqu'un prophétise en disant que Moïse a ouvert la mer Rouge, non, que Abraham a ouvert la mer Rouge, excusez-moi, c'était une histoire qu'on entendait autrefois. Bien sûr que c'est faux bibliquement, c'est pas Abraham qui a ouvert la mer Rouge, c'est Moïse. Mais ça ne veut pas dire que la prophétie n'est pas de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a quelqu'un là qui reçoit des pensées prophétiques, mais qui a une culture biblique très, très confuse. D'accord ? Mais c'est pas ça qui doit nous faire peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on dit quelque chose qui n'est pas biblique, des fois les gens, ils sont un peu. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, mais tu sens qu'il peut y avoir quand même quelque chose de Dieu. Non, quand on dit quelque chose qui n'est pas biblique, c'est beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez ? Il y a un truc qui ne colle pas, ça sonne faux, ça. Il y a quelque chose d'impur, ou bien il y a une amertume dans cette prophétie, il y a de la jalousie, il y a de la division, vous voyez ça. On n'a pas la joie, on n'a pas la paix, on n'a pas la pureté de Christ. Le parfum de Christ n'est pas là. Et pourtant, il y a des miracles, mais même des miracles, des fois, vous savez. Donc, voilà, c'est peut-être la quatrième chose, biblique, qui ressemble à Jésus. Jésus est l'esprit de la prophétie, vous voyez ? Le caractère de Jésus, la présence de Jésus. En fait, quand quelqu'un prophétise, et que c'est de Dieu, quand il y a l'onction prophétique, vous avez l'impression que Jésus est là en personne, et qu'il vous parle. Là, vous savez que c'est de Dieu. Vous comprenez ? Et parfois, ce n'est peut-être pas nécessairement des paroles extraordinaires, vous voyez, du style « Dans 6 mois, le Japon va se déplacer de 10 mètres », mais il y a la présence de Dieu. Et il y a quelque chose dans cette présence qui vous transforme, qui vous console, qui vous fait du bien. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas que les paroles, il y a aussi la présence qui vient. Ça, c'est précieux. C'est précieux. Et donc, on a besoin de retrouver la prophétie, un peu prophétique. Est-ce qu'il y avait une autre question ? On a encore du temps.
En répondant, on va dire, en moyenne discernement, est-ce que tu rentrerais dans ce discernement collectif, ce que dit 1 Corinthiens 14, l'esprit de la prophétie est soumis à
oui.
L'esprit d'un prophète est soumis au prophète.
Oui, oui. Alors concrètement, on pourrait imaginer, par exemple, je donne un exemple pratique, hein, mais on pourrait très bien imaginer que dans une église où il y a plusieurs dons de prophétie, vous voyez, eh bien, ils soient assis ensemble sur un rang et puis qu'ils apprennent à fonctionner ensemble. Parce que parfois, l'onction de prophétie tombe sur quelqu'un, d'accord, et puis ensuite, elle passe à quelqu'un d'autre. Paul dit 2 ou 3, parce que si c'est 4, 5, alors après, ça efface ce qui était avant, et puis, donc 2 ou 3, ça suffit. Après, il y a un moment de discernement, effectivement. Et c'est important que ceux qui dirigent dans la présidence soient eux-mêmes prophétiques, enfin, soient eux-mêmes. Alors, on est tous prophétiques parce qu'on est un peu prophétique, mais ça se prie. Vous voyez, je veux dire, ça se prépare dans la prière, comme tu disais ce matin dans cette église de John Wimber, où les gens priaient dans la semaine pour recevoir des choses, pour que, quand il y avait ces temps de prière par petits groupes, ils puissent bénir l'un ou l'autre. Vous voyez ? Donc, si on est préparé, imaginez que l'église se prépare de cette manière. Vous voyez ? Et là, je rejoins 100% ce que tu disais ce matin, André, c'est que à ce moment-là, ça devient intéressant parce que justement, on peut aussi évaluer, avoir cette évaluation. Ou alors, des fois, là, quand on a des temps pour prier pour quelqu'un, on prie pour un malade ou pour une situation particulière dans une réunion de prière, là, on peut avoir un discernement à plusieurs. D'accord ? Souvent, on fonce et on dit, Seigneur, voilà, il faut que tu guérisses cette personne. Attends. D'abord, on dit, Seigneur, voilà, la personne est malade, on a compassion, on aimerait que tu la guérisses, mais on va te demander, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Qu'est-ce que toi, tu dis ? Parce que nous, dans nos sentiments, dans notre amour pour la personne, dans notre détresse par rapport à la situation, elle va mourir, il faut qu'elle guérisse, quoi. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Et donc, déjà, le côté prophétique se trouve dans la prière, si vous préférez. Est-ce que vous avez déjà remarqué que, quand il y a des réunions de prière, où chacun prie, chacun son tour, des fois vous dites, oh mince, il m'a pris ma prière. Vous êtes déjà arrivé, ça ? La personne prie ce que vous avez envie de prier. Mais c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie. Alors, ce n'est pas encore la prophétie au niveau ministère prophétique, etc. Mais l'esprit de prophétie, est là. La prière et l'esprit de prophétie, c'est quasi, vous voyez, je veux dire. Et une fois, j'avais dans l'école biblique à Marseille, on avait une missionnaire qui avait fait 18 ans au Maroc et qui venait du Guatemala, qui n'avait jamais pu faire de formation biblique. Elle était partie missionnaire tout de suite, dans un mouvement missionnaire assez fort là-bas. Et elle m'a dit, j'aimerais bien être auditeur libre dans ton école biblique, parce que j'ai jamais eu cette occasion, et là on fait une année sabbatique à Marseille. Je lui ai dit, mais bienvenue, mais elle m'a dit, j'ai un problème, c'est que je ne suis pas charismatique, je ne parle pas en langue. Dans ma dénomination, on est très prudent avec tout ça. Et je sais que vous êtes pentecôtiste, est-ce que ça pose un problème ? Je lui ai dit, non, ça ne pose aucun problème, t'inquiète pas, on ne parle pas du parler en langue toute l'année, on a aussi d'autres sujets. Et puis le jour où on en parle, eh ben, tu poses tes questions, et puis on est, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc on arrive justement sur ce thème-là, à un moment donné dans l'année, des dons spirituels. Et puis alors elle me dit, un jour elle me dit, bah, j'ai une question. Elle me dit, j'étais au Maroc, et j'aidais une femme à s'approcher du Seigneur, enfin elle commençait à prier avec, etc. Je sais pas, la personne n'était pas encore vraiment convertie, mais c'était, on était dans dans la pré-évangélisation, si vous préférez. Et puis... En priant pour cette personne, tout à coup, elle commence à dire des choses dans la prière, sans vraiment y penser à ce qu'elle disait, enfin, je veux dire, sans préméditer ce qu'elle disait, plus exactement. Et la personne se met à pleurer. Et puis, elle l'arrête, et puis elle dit, « Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? » Mais elle dit quoi ? « Mais ce que tu viens de dire dans la prière ?» Elle dit, « personne ne me l'a dit. » Et donc, elle était toute étonnée d'avoir prié quelque chose qui était... Alors, elle me dit, « Est-ce que ça pourrait être une parole de connaissance ?» Ah, je lui dis, « C'est toi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. » J'ai dit, tu mets l'étiquette que tu veux dessus. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est que cette personne a été touchée. Si pour ta doctrine, ça ne peut pas être une parole de connaissance, mets l'étiquette que tu veux, ça m'est égal. Mais ça veut dire que tu es une femme de prière, tu es connectée avec le Saint-Esprit habite en toi, parce que depuis la nouvelle naissance, il est là, il t'utilise, et puis, à la limite, si ça se trouve, tu as un don spirituel sans le savoir. D'accord ? Je n'ai pas été jusque-là, parce que je ne voulais pas la... Mais, donc, c'est ça. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. On est étonné de voir ce que Dieu peut faire. On est étonné de voir ce que Dieu peut faire dans tous ces domaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez soif de plus ?
Oui.
Oui ? Vous voyez, est-ce que vous réalisez que... Oui ? Tu voulais poser une question ? Non ? C'est juste pour ton... D'accord. Est-ce que vous réalisez que... Oui ?
C'est une question que moi-même je me pose souvent.
Oui.
C'est que quand on prie pour quelqu'un,
oui,
ou bien quand quelqu'un prie pour vous, et que vous parlez en langue, est-ce,
oui,
que c'est bon de parler en langue quand la personne prie pour vous, ou bien on se tait pour recevoir la prière de la personne ?
Bon, il n'y a pas de règlement là-dessus, mais c'est vrai que parfois c'est mieux de s'arrêter de prier pour vraiment être à l'écoute de Dieu, ce qu'il pourrait dire. Parce que si tout le temps en train de prier, je veux dire, c'est comme si c'est toi qui est en train de combattre, de donner, alors que là, tu es dans un moment où tu es en moment pour recevoir. Donc ça peut aider d'arrêter de prier en langue. Ça peut aider, effectivement. Ça peut être pour la personne qui reçoit la prière, je parle.
La personne,
voilà,
qui reçoit la,
voilà,
prière.
Maintenant, le parler en langue. Qui est-ce qui parle en langue, ici ? D'accord ? Vous parlez en langue régulièrement ?
Ouais.
Tous les jours ? C'est important. Ok. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de règlement, mais c'est bien de parler en langue Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez demander la prière en disant « Moi, je veux parler en langue. » Vous voyez ? Mais le parler en langue, c'est dans le domaine prophétique. Quand vous parlez en langue, vous allez recevoir des pensées. Et donc, vous priez en langue, et puis vous recevez des pensées. Vous les priez en français, ou enfin dans votre langue maternelle, d'accord ? Et puis tout à coup, vous êtes à court, vous repriez en langue, des pensées vous viennent, vous repriez en français, vous pouvez faire ça comme ça pendant autant de temps que vous voulez. Vous voyez ? Parce que quand vous parlez en langue, le Saint-Esprit vous parle, très souvent. Et des pensées qui vous viennent. Ok ? Moi, quand je prépare un message, je fouille pas toute ma Bible de A jusqu'à Z avec le verset le plus compliqué que je trouve pour essayer de vous faire un truc. Je vais marcher, je parle en langue. Et puis il y a des pensées. Ou alors des fois, j'ai une pensée, puis elle m'échappe, et je me dis, je vais la retrouver, je vais parler en langue. Et elle me revient. Vous voyez ? Le Saint-Esprit est là. Lui, sa mémoire, elle est infinie. Moi, ma mémoire, elle est limitée, parce qu'il y a plein de choses qui m'encombrent la tête. Mais quand je parle en langue, puisque Saint-Esprit habite en moi, je suis connecté avec le ciel, donc j'ai toute la banque de données du ciel qui est à ma disposition. Et je dis, Seigneur, montre-moi quel tiroir faut tirer, et puis... Et, vous voyez ? Je ne m'inquiète pas. Parce qu'il vit en moi. Mais je me prépare. Je me prépare parce qu'il y a un travail. Vous voyez, on est actif. On veut. Et donc, le parler en langue est prophétique. Le parler en langue te connecte. Et donc, encore une fois, Job, chapitre 32, c'est l'esprit en langue qui lui donne l'intelligence. Vous voyez ? Oui, on a une intelligence naturelle qu'on peut utiliser pour faire une addition. Vous voyez, je veux dire, ou pour etc. Donc, on va l'utiliser. Mais à la base, c'est le Saint-Esprit, et si on a compris ça, on se défait de la déesse de la raison qui règne sur la France, enfin, qui a été intronisée en France, c'est Jésus qui règne en France au nom de Jésus, mais qui a été intronisée en France à la Révolution, et on dit non, je dépends du Saint-Esprit. On doit prendre conscience de qui on est. J'ai fait une expérience il y a quelques temps, j'ai été à Nantes, il y a peut-être 2-3 ans. Je vais à Nantes avec Ryanair. Et puis, je reviens de Nantes. J'arrive à l'aéroport de Marignane. Et je descends de l'avion et je vais, vous savez, il y a des grands couloirs dans les aéroports. Et puis, on passe par... Enfin, il n'y avait pas la douane, là, puisqu'en l'occurrence, mais on arrive à aller... Et dans le couloir de l'aéroport, je prie à voix haute comme ça, doucement, parce que, vous savez, il y a de l'espace dans le couloir. Je dis, là, au nom de Jésus, je refuse de me soumettre à l'esprit qui est sur la ville de Marseille. Et je dépends du Saint-Esprit. Oui, je ne sais pas pourquoi j'avais pas, c'était pas, enfin j'ai prié comme ça et j'ai dit non, je veux pas. Ok, j'arrive à la gare Saint-Charles, je prends la navette, j'arrive à la gare Saint-Charles. Après j'ai oublié que j'ai prié ça. Enfin oui, je suis arrivé à Marseille, tout ça, je sais pas. Et puis je descends de la navette à la gare routière qui est collée à la gare Saint-Charles. Et au moment de rentrer dans la gare Saint-Charles pour aller prendre le métro, je vois deux jeunes qui sont habillés très correctement, je veux dire, je les ai presque pris pour des vigiles ou un truc comme ça. Tu veux du shit ? Je réponds même pas, mais c'est quoi ce truc ? Donc, ils offraient de la drogue, vous voyez ? Alors, je tombe de ma chaise, entre guillemets, enfin, je comprends. Je dis, mais c'est quoi ? Je me mets en colère. Je suis en colère. Je vais dans la gare, je cherche la police, il y a toujours la police quelque part. Je les trouve sur un quai, je vais vers eux, je dis, voilà ce qui se passe, ta 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 ta. Ils me répondent, c'est Marseille. La police. Ils sont sous un esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils pourraient faire quelque chose. C'est Marseille. Et j'aurais dit non, je regrette. Je suis pas d'accord. Vous voyez ? Et j'étais toujours en colère. Bon, après, j'ai pas pu aller plus loin. Mais j'ai vécu quelque chose. Je me dis, si j'avais pas fait cette prière, moi-même, j'aurais dit c'est Marseille. Parce que je suis capable de le dire. Je suis pas meilleur que la police. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est Marseille. Combien de fois je l'ai dit ? Et chaque fois que je dis « c'est Marseille », je me soumets à l'esprit qui est sur Marseille. Vous suivez le problème ? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit vit en toi. Il veut que tu sois différent. Et donc, il faut que tu apprennes à te connecter constamment à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est tout le temps, on a appris depuis notre enfance à être connecté avec notre tête, nos raisonnements. D'accord ? On est constamment connecté avec l'âme, etc. On revient sur la question de l'alignement. Mais l'alignement, c'est important pour les émotions, mais c'est plus subtil et encore plus important pour les pensées. Vous voyez ? pour les raisonnements. Ça, c'est terrible. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 10. On va comprendre ce passage.
Attends.
Oui. Vas-y.
Je vais te laisser continuer, mais je voudrais pas que les gens partent trop tôt. Si... Jusqu'à quelle heure vous avez prévu de rester? Il est 16h20. C'est juste une question. Non, non, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que si on a fait venir Jean-Hugues, j'espère que tu pourras revenir parce que c'est vraiment passionnant de t'écouter. C'est aussi pour former les gens. Alors, au départ, c'est pour former Jérôme, hein, parce que Jean-Yves. Pardon. Yves-Tau, Gilles. Voilà. Gilles qui nous a aidés, hein, après ces 5 années horribles qu'on a vécues dans l'église, on a fait un reset. Un reset, ça veut dire on met tout à zéro et on va former des personnes qui vont nous succéder, Michel et moi, hein, parce qu'on n'est pas éternel, et puis on va passer la main, former les personnes qui s'occupent de l'église pour que cette église devienne ce phare. On est déjà, mais qu'on va être encore plus, avec des personnes formées. Et quand on dit formées, ça veut dire que formées bibliquement, etc. Donc Gilles, quand il nous a aidés, il a bien vu qu'on avait besoin d'aide, il a dit, ah, je te propose Jean-Hugues, qui va pouvoir former les nouvelles personnes. Voilà. Donc, bien sûr, en premier, c'est Jérôme, parce que... Voilà, le Seigneur nous a conduit à Jérôme et Yuno pour prendre l'opérationnel. Mais moi, dans mon cœur, le Seigneur m'a dit qu'il y en a d'autres à former. Donc je ne voudrais pas que tu puisses partir sans parler un peu de l'école de formation que tu as à Marseille, tu vois, de manière à susciter parmi ceux, vous êtes là, mais peut-être d'autres aussi, et peut-être pour enlever un mythe en disant vous avez peut-être 30 ans de vie chrétienne, vous avez toujours besoin de formation. Tu vois, c'est-à-dire, nous dire un peu comment tu conçois cette école de formation, qu'est-ce qu'elle peut apporter, en particulier aussi l'enseignement de l'épée de l'esprit que tu as traduit et qui est un peu la base. Quand on était à Yvetot, il y a 15 jours, enfin à la Pentecôte, j'ai discuté avec les responsables, hein, donc Jérémy, qui a suivi aussi, je crois, Jérémy, et puis Arnaud. Puis Arnaud m'a dit, bah, écoute, je vais te montrer. Alors il est parti chez lui, parce qu'il était dans sa maison. Il m'a porté toute la pile, l'épée de l'esprit. Il m'a dit, mais tiens, tu regardes. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'ai vu que voilà, les enseignements étaient super. Mais voilà, c'est pas que je veux l'arrêter, hein, parce que je pense qu'on peut continuer à être enseigné. Mais je voudrais pas que vous partiez sans que tu puisses nous expliquer à qui ça peut s'adresser parmi vous, peut-être d'autres qui ne sont pas encore là, de manière à ce qu'on puisse peut-être faire une école de formation et pas uniquement adressée à Jérôme. Je veux bien que ce soit adressé à Jérôme, mais peut-être d'autres seront intéressés à aller plus loin. Parce que si on n'a pas de personnes vraiment formées ici, ce phare dont on parle, il ne pourra pas advenir. Hein, parce qu'il faut vraiment être basé sur la parole. Et... Donc si tu peux nous en dire un petit mot. Mais tu n'oublies pas ce que tu veux.
Alors je garde
2 Corinthiens 10 pour la fin. Rappelez-le-moi. Et je... Donc, si vous voulez, effectivement, quels sont les buts? La formation épée de l'esprit n'est pas destinée à quelqu'un qui vient juste de découvrir le Seigneur. Quelqu'un qui vient de découvrir le Seigneur, il a besoin d'une formation de disciple de base. Qui comprend, je dirais, à la fois les bases de la vie chrétienne, la justification par la foi, le pardon, comment apprendre à prier, qu'est-ce que c'est que la vie de famille en tant que chrétien, parce que vous avez des gens qui arrivent au Seigneur mais qui n'ont aucune notion de la vie de famille. Et c'est dans la parole. Paul en parle dans ses épîtres. Il y a une première partie des épîtres qui est doctrinale, où vous avez la base du salut, ça faut le dire, bien sûr il faut l'enseigner, mais après il y a une deuxième partie qui est pratique. La prière, la liste des péchés dont il faut se débarrasser, c'est important. Il y a des gens, vous leur dites, il faut arrêter avec le péché, mais ils ne savent même pas ce que c'est que le péché. Ils connaissent même pas les 10 commandements. Donc tout ça, c'est vraiment les bases qu'on va poser pour la vie de disciple. En parenthèse, les 10 commandements, c'est, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours les mêmes. Juste au passage, au cas où. Oui. Il n'y a pas eu de réno, il n'y a pas eu de révision. D'accord. Et donc, après, une fois que le disciple est formé, qu'il a lu la parole, qu'il sait le combat spirituel, qu'il sait prier, qu'il a fait des expériences de foi, que, je veux dire, voilà, enfin, il y a toutes ces choses qui sont posées, qu'il a vécu certaines délivrances, il a renoncé au péché, etc. dans sa vie. Après ça, vous avez des chrétiens qui connaissent plein de passages de la Bible, qui aiment le Seigneur, mais tout est un petit peu mélangé. Parce qu'ils ont entendu ça dans une prédication, ça dans une autre prédication. Après, il y a YouTube qui nous aide plus ou moins, d'accord. J'ai entendu un grand prédicateur qui disait ci, qui disait ça. Et donc, vous avez des connaissances qui sont dispersées dans tous les coins, voyez. Et la formation épée de l'esprit, c'est une formation systématique sur des thèmes de la parole de Dieu, mais qui touche pas que, enfin, des thèmes qui sont tirés de la parole de Dieu, mais qui touchent à la vie de l'Église, la foi, la prière, l'évangélisation. Il y a le sermon sur la montagne, dans celui-là, le règne de Dieu. Voilà, la prière, le Saint-Esprit, le règne de Dieu, le sermon sur la montagne, la foi, l'ecclésiologie, la gloire dans l'Église, ça s'appelle, mais c'est tout ce qui concerne l'Église, comment ça fonctionne. Le ministère de l'Esprit, comment je prie pour les malades, comment je chasse les démons. Quels sont les. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avant de prier pour un malade, Seigneur, guéris-le, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire. Vous voyez. Après, j'ai pas poussé plus loin, mais c'est dans le ministère de l'Esprit. Enfin, dans ce livre-là. Connaître le Père, atteindre les perdus, écouter Dieu. Tout le domaine prophétique dont je vous ai parlé, c'est dans écouter Dieu, en beaucoup plus, voilà, je veux dire, détaillé. Connaître le Fils, le salut par la grâce, et adorer en esprit en vérité. Et au travers de ces 12 thèmes-là, grosso modo, vous avez l'essentiel de ce qu'on appelle la doctrine. Vous voyez ? Et ce qui est spécifique de ce cours, parce qu'il y a d'autres cours qui existent, évidemment, il y a des écoles bibliques dans le monde entier et tout ça, vous n'êtes pas, je veux dire, mais c'est pas la seule qui existe, je veux dire, mais là, il y a vraiment un souci d'un pasteur Colin Dye qui venait d'un milieu pentecôtiste, non, qui venait d'abord d'un milieu darbiste au moment de sa conversion, donc très biblique, et puis ensuite qui est devenu pentecôtiste, qui a vécu les dons spirituels, et à un moment donné, il est passé par une crise où il s'est dit, attends, la prophétie, c'est une chose, mais la parole de Dieu doit être centrale. Comment est-ce que j'arrive à marier les deux? Comment ça marche? Et là, il s'est obligé à réfléchir les choses en disant, je veux qu'il y ait la parole et l'esprit ensemble. C'est pas que l'esprit, c'est pas que la parole, c'est la parole et l'esprit. Vous voyez? Et le cours s'appelle une école, c'est pas marqué là, mais une école du ministère dans la parole et dans l'esprit. Voilà. Donc, l'avantage de ce cours, c'est que vous aurez, comment dire, vous aurez un enseignement qui concerne vraiment la vie pratique de l'Église, comment prier pour les malades ou comment chasser les démons. On va pas vous enseigner ça nécessairement dans des grandes facultés de théologie, vous voyez, je veux dire. Mais par contre, dans ce cours, vous allez trouver. D'autre part, vous aurez une vue d'ensemble de chaque thème. Vous voyez ? Par exemple, si je prends le thème de la prière, on va étudier la prière dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Église, appliquée à l'Église aujourd'hui. Et dans pratiquement tous les livres, tous les manuels, il y a 12 manuels, à chaque fois, vous avez le thème, la foi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, appliqué à l'Église aujourd'hui. L'Église dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, hein, il y avait l'Église dans l'Ancien Testament, vous voyez, appliquée à l'Église aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est systématique. Et puis j'ajoute à ce cours une introduction à la Bible qui dure environ 4 heures pour que vous ayez, parce que ça manque un peu, je trouve, enfin dans ce cours, il est parlé de la Bible, mais c'est pas assez approfondi, et je crois que c'est très important aussi. C'est quelque chose que j'ajoute, qui est très important, que les chrétiens aujourd'hui, surtout dans nos milieux qui sont un peu plus charismatiques pentecôtistes, on est on connaisse la parole de Dieu aussi dans son contexte historique, quand vous lisez un livre, qui l'a écrit, à quelle époque, quel est le contexte, etc. Comment relier les prophètes dans ce testament avec les livres prophétiques comme Ésaïe, Jérémie, et puis qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des rois, vous voyez, l'histoire des rois, donc il y a tout le côté historique, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de rois, et puis vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, à quel moment ils ont vécu ces prophètes. Eh bien, comment est-ce qu'on fait le pont entre les deux, par exemple? C'est juste une question historique, vous voyez. Et donc, ça, tout à coup, le livre que vous lisez prend une autre, un relief qu'il n'avait pas avant, parce que vous le remettez dans son contexte. Les psaumes, certains psaumes de David, vous êtes dans Samuel, à quel moment, psaume 51, repentance par rapport à Bathsheba, je retrouve dans 1 Samuel 11, et là, ou 2 Samuel 11 plutôt, et là, je vois qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et je mets le psaume en relation avec l'historique du psalmiste. C'est pas pour tous les psaumes qu'on peut faire ça, mais pour certains, on peut le faire. Vous voyez? Etc, etc. Donc, on étudie la Bible dans son contexte, on étudie la Bible, même les manuscrits, enfin, dans quelle langue ça a été écrit, etc, etc, pour que vous soyez quand même, quand quelqu'un vous dit, oui, mais la Bible, on peut pas s'y fier, c'est n'importe quoi, etc, vous pouvez répondre, si, si, on peut s'y fier pour telle et telle et telle et telle raison. Vous voyez? Donc, c'est aussi un souci d'apologétique, de défense de la foi. Donc, ça, c'est un socle qu'on pose au tout début. Ensuite, vous avez cette étude systématique des doctrines de la Bible. Et alors, ça va vous pousser à la pratique, parce que ces cours sont quand même tournés sur la pratique, d'accord ? Ça va vous donner un fondement, parce qu'il y a des choses très théologiques dedans quand même. Vous voyez, vous allez découvrir des choses sur Dieu qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous transformer intérieurement. Et ça va ordonner. Vous allez retrouver des choses que vous saviez déjà, parce que vous avez été enseigné dans l'Église. Mais ça va le mettre dans le bon ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, vous serez capable de répondre aux contradicteurs. C'est ce que dit Paul à Timothée, ou à Tite, je ne sais plus. Quelqu'un, le responsable doit être capable de répondre aux contradicteurs. Et vous ne pouvez pas répondre aux contradicteurs s'il n'y a pas de l'ordre dans vos pensées au niveau biblique. Parce que quelqu'un vous pose une question, vous serez là... Et puis, il peut, si vous êtes tout à coup en responsabilité, d'accord, mettons qu'il y a un réveil, et puis vous habitez à 10 km d'ici, vous avez 30 personnes à vous occuper. Et puis vous commencez à les enseigner. Et puis il y a quelqu'un qui arrive de Pétahouchnok qui vous dit, voilà, moi je crois que les anges, je sais pas, ils sont roses ou ils sont jaunes. Il faut faire... Enfin bon, ça c'est pas difficile de répondre, mais je veux dire... mais il faut savoir répondre, vous comprenez? Mais quelqu'un qui dit maintenant, voilà, le Seigneur m'a dit que... Ah, voilà, déjà, faut... Tendez bien l'oreille, hein, quand on vous dit, le Seigneur m'a dit que... Vraiment, est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit, vous voyez? Mais si vous n'avez pas de fondement solide, vous êtes vite déstabilisé. Ou bien quelqu'un qui, justement, vous dit, ouais, mais le texte, il dit ça en grec et tout ça. Je vous donne un exemple. Tu me donnes 2 minutes? Pour vous montrer l'importance. Même le grec, vous devriez l'étudier. Vous direz, non, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué. Vous pouvez, vous avez vous sur scène, là... À 10 minutes, allez prendre leur matériel. Ils ont du matériel, je suppose, ils ont une bibliothèque. Étudiez un peu. Je dis pourquoi. Vous avez des sites avec la concordance Strong qui vous donne, pour chaque mot de la Bible, vous avez le mot hébreu ou grec, enfin hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau Testament, qui correspond. Et les chrétiens se disent, ah, moi, en grec, ça veut dire ça, donc la Bible, elle veut dire ça, etc. Doucement. Il n'y a pas que la définition du mot. Il y a la syntaxe, il y a la grammaire. Il y a la forme que prend le mot dans la phrase. Est-ce que c'est un passif? Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est un aoriste? Est-ce que c'est je sais pas quoi, etc. Vous voyez, je veux dire, il y a la grammaire de ces... Si vous étudiez la grammaire de ces langues un petit peu, par exemple, vous prenez Matthieu 28, 19, tout le monde connaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'ordre, le grand ordre missionnaire. C'est un passage qui est hyper important. Et... Vous regardez votre concordance Strong, vous cliquez, vous regardez, vous dites, c'est marqué littéralement, en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, etc., etc. Ah, donc, c'est pas un impératif, c'est pas aller, c'est en allant. Donc, Dieu nous donne pas l'ordre de partir partout, etc., et tout ça. Et puis, vous bâtissez toute une histoire parce que vous avez votre concordance Strong et vous pensez que vous savez tout. Mais ce que vous ne savez pas, et que vous ne pouvez apprendre que dans une grammaire, c'est qu'un participe aoriste devant un impératif a valeur d'impératif. Donc il faut bien traduire par « aller ». Ok, il n'y a pas d'erreur dans la traduction. Mais il n'y a que quelqu'un qui connaît la grammaire qui peut le savoir. Si tu penses savoir le grec parce que tu as ta concordance strong, parce qu'on a des outils informatiques extraordinaires aujourd'hui, eh bien, et que tu n'as pas étudié de manière plus approfondie, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a expliqué ces choses, tu vas te... Et vous avez des chrétiens comme ça qui construisent tout un échafaudage doctrinal qui part dans tous les sens. Des fois, j'ai vu des trucs sur Internet, mais je m'arrachais les cheveux. Les gars, ils vous sortent de ces théories. Il y en a un qui parlait sur le Covid, qui prenait les mots grecs et qui vous sortait des trucs dans la Bible. En fait, la Bible vous parle de Covid, vous parle de tout. Enfin, dites là, on est parti où, voyez ? Ce qu'on a besoin, c'est... Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Okay. Attendez, on revient un peu à la base. On a besoin de l'Évangile. On a besoin du pardon des péchés. On va pas... Même si la Bible parle du Covid, tant mieux, mais ça va pas changer ma foi. Vous comprenez ? Et donc, si vous n'avez pas ce fondement, soit au niveau linguistique, soit au niveau historique, soit au niveau de la doctrine, si vous n'avez pas été un peu... s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a un petit peu... et appris à éprouver un peu vos fondements en disant, mais qu'est-ce que dit vraiment la Bible ? Ah ben moi je croyais que non, mais regarde ce que dit la Bible. Fais-toi ta propre opinion. Oui, mais qu'est-ce que tu penses ? Non, non, toi tu fais ton opinion. Et avec ce cours, je vais vous demander de vous faire votre propre opinion. Je vais pas vous indiquer... Enfin, il y a des choses de base qu'il faut savoir et qui sont une évidence. Vous voyez, mais il y a des domaines où on n'est pas... Il y a une série de versets qui va dans un sens, une série de versets qui va dans un autre... Et on vous oblige à creuser. Parce que le jour où on vous posera la question, vous aurez fait votre recherche. Vous serez solide sur vos pieds. Voyez ? Vous pourrez dire éventuellement ça, c'est un domaine, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Donc, c'est un domaine secondaire. Okay ? On ne va pas se battre là-dessus. Mais là, vous pouvez dire, non, là, je sais. Non, non, ce que tu dis, ça ne tient pas la route, pour telle et telle raison. Voyez ? Donc, vous serez capable de répondre aux contradicteurs. Et un leader, là, on va vraiment utiliser le mot leader, il doit avoir ce fondement biblique. Vous pouvez avoir tous les dons que vous voulez, vous pouvez ressusciter les morts tous les jours, mais ce n'est pas un fondement biblique, ça va partir dans le décor. Vous voyez, à un moment donné, il faut ce fondement biblique. Donc je vous encourage, si vous avez déjà la vie de disciple qui est en place, et je pense que c'est le cas pour la plupart ici, enfin, votre pasteur, moi de toute façon, enfin je dis moi, nous, en tant qu'équipe de l'IFIM, ça s'appelle l'IFIM, hein, mais ou Épée de l'Esprit, quand on reçoit une candidature, on demande la recommandation du pasteur ou d'un responsable qui nous dit, si, moi j'appelle toujours le pasteur, je lui dis, est-ce que tu as bien compris que la personne qui suit ce cours doit avoir déjà une base ? Parce que si il étudie l'ecclésiologie, donc comment l'Église doit fonctionner, et que tout à coup il apprend quelque chose en disant, ah, il va dire à l'Église, mais attendez, le pasteur il s'est trompé, il ne faut pas faire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de maturité, il n'y a pas de sagesse. Donc la base de la vie de disciple n'est même pas posée, et il va gonfler avec ce qu'on lui a dit. Et vous savez, une fois, je marchais en montagne, une montagne très raide, et je vois un mouton qui est mort, et je demande à quelqu'un qui connaît la montagne, il me dit oui, il a mangé une herbe qu'il n'aurait pas dû manger. Il avait gonflé, il était mort. Vous voyez ? Il y a de l'herbe qui ne sont pas faites pour certains moutons à certaines saisons, etc. Et Dieu sait quelle nourriture on a besoin, à quelle saison, etc. Il y a des nourritures qui peuvent nous faire mourir spirituellement. Vous avez des trucs YouTube où des gens vous racontent des salades et ça peut vous égarer. Donc on a besoin de quelque chose qui est sain, S-A-I-N, qui est la parole de Dieu, qui est établie, qui part pas dans tous les sens, qui a été éprouvée. Et puis après, oui, évidemment, on a des traditions dans nos églises, des fois, qu'on peut remettre en question, mais on a la sagesse de dire au pasteur, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je trouve que c'est intéressant, etc. Et on sait que d'abord l'unité, d'abord la prière, d'abord, vous voyez, c'est pas parce que j'ai une nouvelle théorie que l'Église devrait avoir 17 anciens au lieu de 15, et alors ? Qu'est-ce que ça va changer ? Vous voyez, je veux dire ? Enfin, je prends un exemple un peu bidon, mais vous voyez, des gens qui sortent avec des trucs comme ça, qui vous disent, on va tout remasteriser. Oui, mais si t'as pas le Saint-Esprit, ça va rien changer, hein.
Et concrètement, est-ce qu'il faut se déplacer à Marseille ?
Ah oui. Comme je vous aime bien, maintenant je vais vous faire venir. Non. Alors, ça se fait à distance le jeudi soir de 19h15 à 21h15. Tous les jeudis soirs, de septembre à juin, sauf les vacances scolaires une semaine sur deux. Noël, on s'arrête. Et juillet, août, on s'arrête. Voilà, grosso modo. Vous voyez, donc, grosso modo, on suit à peu près l'année scolaire. Hein, mais les vacances, on ne prend pas 15 jours à chaque fois, on ne prend qu'une semaine, sinon on ne fera plus rien. Vous avez, on étudie 6 livres sur les 9 mois là, du calendrier scolaire. On étudie 6 livres, 2 en automne, 2 janvier, février, mars et 2 avril, mai, juin. Ça fait 6 livres et en tout, on en fait 12 en 2 ans. En 2 ans, vous avez bouclé le cours et vous pouvez prendre le train en route quand vous voulez. Enfin, on ne commence pas au milieu d'un livre quand même, hein, mais si possible, soit en janvier, soit en avril, soit en septembre. Vous pouvez, là, par exemple, si vous vouliez démarrer, ce serait bien de démarrer en septembre. Vous n'avez pas démarré à mi-juin, ça n'aurait pas de sens. Sauf si vous voulez juste écouter un cours pour voir si ça, si ça vous pouvez le faire. Je vous donne un lien Internet, un lien, on appelle ça Zoom, enfin bon, ou Google Meet, je ne sais pas, enfin ça dépend des cours qu'on fait. Enfin, visioconférence. Il vous faut un ordinateur, ou vous pouvez faire que le téléphone, mais c'est un peu fatigant pour les yeux. Mais si vous n'avez que le téléphone, ça peut marcher aussi. Et puis, ou l'ordinateur, c'est quand même mieux. Et puis, il faut une bonne connexion, un ordinateur ou un téléphone, et puis c'est tout.
Techniquement.
Le prix. Alors, si vous avez, si vous êtes, comment dire, vous avez un revenu, vous avez un travail, etc., le prix indicatif, c'est 30 euros par mois. Si vous êtes dans une situation difficile, on parle avec votre responsable, on peut très bien dire que, vous voyez, ou on peut aussi imaginer qu'avec l'Église, on fait une sorte de prix de groupe, vous voyez, je peux discuter avec votre pasteur, mais il ne faut pas que ce soit le prix qui vous arrête, en fonction de votre situation, vous voyez, donc, c'est un prix indicatif, parce que ça nous permet de soutenir un travail qu'on fait en Mauritanie, pour l'enseignement, ou d'autres choses qu'on fait à Marseille, vous voyez, c'est pas, voilà. Donc, c'est un prix de soutien, en quelque sorte. Il y a un site qui s'appelle ifim.fr, sur lequel vous avez l'ensemble des informations. Je vais vous l'écrire sur le tableau.
Il est là, je
crois. Ah oui, il est là, merci.
Ça, c'est le site. Voilà.
Donc, ça répond. Vous avez des questions sur cette formation? Ça vous donne un peu une idée générale. Ça fait 30 ans que la formation existe, au moins, oui, 30 ans, et il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs qui ont été formés juste, qui n'avaient que ça, et qui ont pu exercer le ministère. Bien sûr, après, il faut des compléments, mais ça, je sais que vous êtes bien outillés pour ça. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que l'Église, et je pense que vous le faites par différents outils que vous avez, chaque Église a ses outils, mais la première base qu'on pose dans la vie de disciple est très importante. L'alignement, ces choses, c'est des choses de base qu'on a un peu reprises là dans ce séminaire. Mais pourquoi je le reprends? Parce que même les vieux chrétiens, ils ont besoin de remettre un peu les bases en place de temps en temps. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais ça, c'est très important. Et donc ce cours, c'est vraiment pour quelqu'un qui va avoir des responsabilités, qui a besoin de connaître les choses, qui a besoin de comprendre la vision de l'Église, qui est le Père, par exemple la Trinité. Prenons un chrétien lambda en France et dites-lui, explique-moi la Trinité.
Trinité,
c'est un mystère. Ah oui, d'accord, ok. Et après, ceci dit, c'est quoi? Et vous entendez de ces trucs sur la Trinité qui partent dans tous les sens, vous voyez. Chaque chrétien a sa petite théorie. Et quand les musulmans viennent maintenant et vous dites « votre Trinité, c'est n'importe quoi », les chrétiens ne savent pas quoi répondre. Ne serait-ce que pour ça, il faut être formé, vous voyez. Chaque chrétien devrait être capable, c'est quand même la Trinité, c'est quand même la base de la foi chrétienne. On devrait être capable, sans être des grands théologiens, d'expliquer qu'il y a une seule nature divine, qu'il y a trois personnes divines, vous voyez, qui existent simultanément de toute éternité, que le Père a envoyé le Fils, que le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. On devrait être capable de... Vous voyez, de faire la différence entre modalisme et trithéisme, etc. Ça devrait être la base pour tout chrétien, parce qu'on a affaire aux musulmans, on a affaire aux témoins de Jéhovah, on a affaire à tous ces gens-là. On devrait être capable, tranquillement, avec les versets. Qui, par exemple, moi j'étais jeune en Angleterre, j'ai passé 9 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais, et pendant 3 mois j'étais à Brighton dans une école de langue chrétienne, et j'étais logé chez des chrétiens parce qu'il y avait un système de logement, donc. Le couple qui me logeait sont partis en vacances, je passe le week-end seul chez eux, et il y a des témoins de Jéhovah qui frappent à la porte. Donc moi je dis bonjour et commence à me bourrer la tête sur le fait que Jésus n'est pas Dieu. Et moi, j'étais pas outillé. Je, fils de pasteur, entendu 1000 sermons dans ma vie, enfin, je sais pas, 500, je sais pas combien, le nombre, 50 par année, pendant 10 ans, ça fait 500, pendant 20 ans, ça fait 1000. Vous voyez, enfin, si je. Et oui, tu vas à l'église tous les jours de ta vie. Enfin, toutes les semaines de ta vie. 1000 sermons, mais je suis incapable je connais. J'avais pas de texte pour dire que Jésus est Dieu. J'avais pas. Vous voyez? Après, j'ai dû prier pour. Et après, bon, Seigneur, c'est dans la prière que j'ai retrouvé un peu mon équilibre, mais j'étais un peu sonné, là, vous voyez? Donc, c'est pas normal. Alors, j'avais 20 ans, mais c'est pas normal qu'un leader ne puisse pas répondre à ces questions. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand théologien, de tout savoir, de, vous voyez, de connaître l'araméen et le sanskrit, mais. Enfin, le sanskrit, ça sert pas grand-chose. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Mais vous devez au moins répondre sur ces questions-là. D'accord ? L'histoire de l'Église, on n'en parle pas dans le cours, là. Ça fait partie des compléments. Moi, je trouve que ce serait important que les chrétiens connaissent un minimum de l'histoire de l'Église. Parce que ça vous explique pourquoi il y a toutes ces dénominations. Ça vous explique d'où on vient. Ça vous explique aussi des erreurs du passé qu'on n'a pas besoin de refaire à chaque fois, etc. etc. Ok ? Je m'arrête là. C'est bon ?
Des questions, non ?
Donc, c'est ouvert à tous, y compris les jeunes. C'est très formateur. Et c'est un engagement. Et c'est bien, quand même, juste au niveau pratique, que vous ne fassiez pas juste que écouter pendant 2 heures, puis après, la semaine suivante, vous arrivez. Prenez au minimum 1 heure ou 2 le reste de la semaine pour réétudier le cours, le relire, reprendre vos notes, voyez, et travailler dessus. Et même, et éventuellement, le redonner autour de vous, ce que vous avez compris, à votre conjoint, si votre conjoint ne le suit pas, mais je pense à toi, Jérôme, tu peux redonner toute l'école à ta femme, comme ça, ça va la rafraîchir, parce qu'elle a déjà fait ça, mais. Et puis en le redonnant à quelqu'un, vous allez mieux le comprendre et mieux le retenir. Le meilleur moyen de retenir quelque chose que vous avez appris, c'est de le donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Pas tout in extenso, mais je veux dire au moins des choses essentielles qui vous ont frappé. Et puis faites votre recherche dans la Bible en disant « Attends, là, il a dit ça, mais il faut quand même que je vérifie. » Vous regardez les textes, vous voyez ? C'est très important. Et là, vous allez devenir très solide et avoir un impact beaucoup plus... Et vous allez voir. Moi, chaque fois que les gens font ce cours, ils me disent « C'est extraordinaire, je découvre des choses, ça me fortifie, ça, vous voyez, ça fait grandir, ça fait du bien. » Parce que c'est systématique. 2 Corinthiens 10. C'est juste... On finit juste avec ça. Après, je vous promets que je vous libère. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous vous rappelez de ça ? Si, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous voyez, il ne dit pas nous renversons. Comment dire, Paul ne nous dit pas quand tu entres dans l'église, pose ton cerveau à l'entrée et puis reprends-le quand tu sors de l'église. Voyez, vous connaissez l'histoire du gars qui arrive au ciel et puis un ange, c'est une histoire inventée bien sûr, qui lui montre des cerveaux. D'accord ? Et puis il dit, tu vois, là, tu peux, si tu veux, je peux te donner un nouveau cerveau. Alors, voilà, ça c'est un cerveau d'un chrétien réformé. Il a quand même pas mal servi. D'accord ? Donc il est un peu usé. Après ça, c'est un cerveau baptiste. Il a un peu moins servi, mais quand même. Alors par contre, j'ai un cerveau là qui est tout neuf. Il est pentecôtiste, il n'a jamais servi. Bon, c'est un peu méchant comme blague. Mais c'est pour vous dire, parfois, parce qu'on a le Saint-Esprit, on pense qu'on n'a plus besoin d'utiliser son cerveau. Ce n'est pas ça que Paul est en train de nous dire ici. Il renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mais on a besoin de réfléchir, de raisonner, de penser notre foi. C'est nécessaire, parce qu'il est dit qu'il faut aimer Dieu de toute notre pensée. Toute notre force, toute notre âme, tout notre cœur, toute notre pensée. Donc on met notre pensée au service de Dieu. Simplement qu'elle doit être au service du Saint-Esprit. On la soumet au Saint-Esprit, mais on l'utilise. On l'utilise. OK ? Faut pas se tromper là-dessus. Et donc vous voyez qu'ici, il dit, nos armes ne sont pas charnelles. Donc on doit apprendre à dépendre plus du Saint-Esprit. Avec notre intelligence, avec nos émotions, avec tout ce qu'on a, tout ce qui fait notre être, mais on dépend du Saint-Esprit. Maintenant, petit secret. Quand Paul dit « nos armes ne sont pas charnelles », ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, lui, Paul, des armes qui sont... Il en a des armes charnelles. s'il veut, il peut les utiliser. Il y a des textes où il dit, maintenant, je vous parle selon l'homme, je vous parle selon Dieu, parce que des fois, il a envie de les, d'accord, les secouer un petit peu. Et puis, il dit, il sait très bien qu'il a des, si Paul avait voulu, il aurait pu sortir toutes ses connaissances, toute sa panoplie, il aurait pu, vous voyez. Et il dit, non, mais je préfère être, comment dire, dépendre du Saint-Esprit. Si je résume ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et 2, vous voyez. Donc, Paul avait des armes charnelles s'il voulait. Mais il décidait d'utiliser les armes de l'esprit. La parole de Dieu, le sang de Jésus, la prière en langue, les dons spirituels, l'armure du chrétien. Il connaissait toutes ces armes spirituelles. Et même s'il avait pu utiliser ces armes charnelles, il a décidé de ne pas les utiliser. Et nous, en tant que chrétiens, on a le choix tous les jours. On peut décider d'utiliser la haine, la rancune, la vengeance, nos paroles pour détruire un autre chrétien, pour dire t'es un nul, etc. Et moi je vais te faire la peau, etc. On peut utiliser la calomnie, on peut utiliser, on sait faire, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller, à l'école pour apprendre ça, ça s'apprend tout seul. C'est bizarre, hein. On sait faire, mais on choisit de ne pas utiliser ses armes. Ok. On choisit de dépendre du Saint-Esprit et de mettre notre cerveau, nos pensées, nos émotions, nos mains, nos pieds au service de Dieu parce qu'on est consacré à Dieu. Alléluia.
Amen.
Donc c'est un choix qu'on fait, jour après jour, de marcher selon l'Esprit. Merci Seigneur. J'ai demandé à votre pasteur de prier pour conclure.
Je te remercie Seigneur pour ce séminaire. Était riche de toutes sortes de manières, que ce soit ta parole, que ce soit les échanges, que ce soit, Seigneur, la communion fraternelle que tu nous as donnée. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, car tu as, Seigneur, un plan pour nous, un plan personnel, un plan d'église, un plan, Seigneur, pour nos relations, pour l'avenir, pour la transmission de cette nouvelle génération, Seigneur, qui doit reprendre le relais. Seigneur, nous te remercions pour tout cela et encore pour tout ce qui va se passer après avoir décanté, Seigneur, tout ce que tu nous as dit, pour que nous puissions le mettre en pratique. Veuille nous aider, veuille nous garder. Bénis aussi le retour de nos amis à Marseille, et que tu les gardes et que tu continues à bénir le ministère. Ce ministère, Seigneur, qui est tellement important pour ton royaume et pour ton Église. Seigneur, nous te disons merci et que toute la reconnaissance te revienne. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen.
Excusez-moi, les livres, justement, pour la formation. Combien ça coûte, quand est-ce qu'on commence les avoir, etc.
Alors, ils sont. Il y en a qu'on va faire réimprimer à la demande en Angleterre. Je peux les commander. Certains seraient douces, certains sont. Ils sont à la CLC. Et puis moi, j'ai une réserve de certains de ces livres que je peux vous envoyer ou qu'on peut vous faire passer si vous faites une sorte de commande groupée. Donc il y a différents moyens. Ils sont à la limite, ils sont à la CLC. Et je peux déjà vous laisser ces quatre en dépôt. Comme ça, vous avez déjà. Mais, et puis vous pouvez les consulter, regarder. Enfin, vous pouvez aussi venir, si vous voulez, sur un Zoom. Enfin, ou un, vous pouvez, là, enfin, courant juin, pour avoir une idée. Faites une idée. Et venir en auditeur libre. Et puis après, vous regardez votre pasteur pour l'inscription. Moi, j'aurai la recommandation qui vient de lui par email, et simplement ça suffit. Et puis à ce moment-là, on s'organise. Hein, d'en parler entre vous. Et puis... Alors, ce qui peut être sympa pour une église comme la vôtre, c'est de vous dire, enfin, moi des fois je fais ça avec certaines églises, selon les années, c'est que si par exemple vous êtes 4, mettons qu'il y en a 5 qui s'inscrivaient, on nomme un coordinateur sur les 5. Et comme ça, quand il y a un devoir à faire, quand il y a des retours, etc., des questions, il y a un coordinateur, et moi je fais ça, là j'ai des étudiants d'Algérie, et bien j'ai un coordinateur en Algérie. Donc j'envoie tout, et puis ça permet de centraliser un peu les choses, et aussi vous, c'est vous. Vous pouvez même des fois vous dire, bah, tiens, on va chez l'un ou chez l'autre, et puis on est deux ou trois autour d'un écran, et puis comme ça, ça nous stimule, parce que sinon, tu es tout seul devant ton écran, des fois, c'est un peu... Voyez. Mais c'est interactif, vous pouvez poser vos questions dans la visioconférence, et je vous réponds, et voilà. Il y a toujours des étudiants qui posent des questions à chaque fois d'autres qui posent des questions, mais on essaie un peu de faire tourner. Là. D'accord. Donc c'est quand même comme une classe, les visioconférences, mais le fait à plusieurs ici permet d'augmenter un peu, vous pouvez inventer des choses pour que ce soit un peu plus sympa entre vous. Quoi. Mm-hmm. Vous voyez. Si vous avez le temps, si vous arrivez à vous organiser, ça c'est à vous de voir.
Oui, on utilise aussi la salle de webconférence qui est en bas, quoi. Qui permet de prendre des notes, etc.
Et ça vous stimule, parce que si vous n'habitez pas trop loin, vous dites, bon, bah là, il faut que j'y aille. Sinon, parce que j'envoie le replay, mais des fois, je me dis, il ne faudrait pas que je le fasse. Parce qu'il y en a vraiment, au niveau professionnel, ils ne peuvent pas. Par exemple, un infirmier, un pompier, ben, des fois, il ne peut pas. Donc, il a le replay. Mais il ne faut pas que ce soit un coussin de paresse en disant, bon, parce qu'il y en a où trois ans, ils disent, bon, en fait, j'ai rien suivi, j'ai tous les replays, mais je n'ai pas le temps de les écouter. Bon, ben, c'est pas la peine. Vous voyez, le but, c'est quand même que vous puissiez digérer les choses et voilà. Donc voilà, un coordinateur, ça peut être sympa.
D'accord.
Oui.
Madame, est-ce qu'on s'engage pour 2 ans obligatoirement ou bien on paye?
Non, c'est pas obligatoire. Maintenant, si par exemple, admettons qu'en septembre tu t'engages pour une année jusqu'à juin 2025, et après tu t'arrêtes. Mais comme c'est la deuxième année, on fera les 6 autres livres, si tu les fais pas, tu pourras les faire que dans 2 ans. Mm-hmm. Tu perds une année quand même, tu vois. Parce que c'est une sorte de tronc, c'est comme un tronc commun, c'est comme un bus qui fait des stations, il fait toujours le même tour. Tu montes à la station où tu veux, tu restes dans le bus et tu fais tout le tour. Et tu reviens à ta station à toi, ou à la station juste avant. Tu vois, donc si tu t'arrêtes, il n'y a pas 2 bus, il n'y en a qu'un qui fait le tour. Donc tu vas attendre une année pour retrouver les cours dont tu as besoin, que tu n'avais pas fait l'année où tu t'es arrêté, ou les 6 mois où tu t'es arrêté. Mais ça arrive qu'un étudiant ne fait plus pour des raisons familiales ou professionnelles, et puis reprend plus tard. C'est-à-dire, ça vous donne une souplesse, mais essayez quand même dans votre tête de vous dire, je me mets à part pour ça, genre, vous voyez, parce que la souplesse des visioconférences, etc., à son avantage et son désavantage. Son désavantage, c'est que des fois, on a la peine à vraiment s'y mettre, quoi. Et une des difficultés qu'on a, c'est de se dire, je suis adulte, j'ai une famille, c'est un sacrifice, mais je vais le faire, parce que je sais que c'est utile. Vous voyez ? Et je vous encourage à le faire sérieusement, dans ce sens-là. Sauf si, voilà, il y a toujours la possibilité, s'il y a un cas de force majeure, comme on dit, ça existe. Et là, on peut trouver...
Bien, là, je voudrais encore, au nom de toute l'Église, vous remercier. Et puis aussi remercier Elisabeth d'être venue, parce que j'ai compris que Gilles n'a pas eu ce privilège. À Yvetot, on a eu le privilège d'avoir Elisabeth avec Jean-Hugues. En tout cas, c'était un très, très grand encouragement pour nous. Et puis un plaisir de vous connaître, aussi ton fils, hein, Emmanuel. Et peut-être que tu pourras revenir à un moment donné. On verra en fonction de ce que l'Église va vivre. Et voilà, maintenant il faut qu'on se mette à évangéliser, à avancer, pardon.
À prier.
Prier, voilà. Mettre en...
Si on prie pour que tu reviennes, là, c'est sûr d'être exaucé, là.
Oui, mais alors attention, hein, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, vous aussi. Ils ont fait ça avec Yong Gisho et ils ont peut-être regretté parce qu'il a donné le même message parce qu'il n'avait pas mis en pratique.
C'est pas
grave, c'est oui, mais s'il revient dans un an et qu'on n'a pas prié, il va reparler de la prière. Hein. Non, parce qu'il est... C'est un formateur. Hein. Les formateurs, ils sont pédagogues. Pardon ?
On est des prières,
on est des prières. Bah, disons que, voilà, on va essayer d'entraîner plus, hein, Charles. Parce que, bon, je sais qu'il y en a qui prient ailleurs, mais je pense qu'il faut une prière communautaire. Parce qu'il a une puissance d'efficacité dans le ciel, hein, qui est importante, prier ensemble, qui est une autre dimension que prier séparément, etc. Donc voilà, il faut qu'on rentre dans cette dimension-là pour arriver à faire une percée, comme on dit, hein. Après, il faut percée spirituelle. En tout cas, un grand, grand merci. Je ne sais pas comment le faire, le dire autrement, mais c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir vivre ce temps avec vous et aussi avec toute l'Église. Voilà, bon retour à tous et à bientôt.